Make their Christmas wishes come true. Whether they love Disney's Frozen 2, want to jet off on Barbie's dream plane, or ready up with the Fortnite Battle Royale collection. At Littlewoods.com, you'll find all the toys they love, all with inclusive delivery and free returns. Own Christmas. Shop now at Littlewoods.com.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, de Tata
Roussanou.
Il a tué la baraque et puis Marquitos.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous, et oui, l'After est là, comme tous les soirs, 7 jours sur 7, jusqu'à minuit, à la radio, sur RMC, à la télé, sur RMC Sport News. L'After, la seule émission en direct en France, 7 jours sur 7, même à Noël cette année, je le répète, mais ce sera le cas, pas de trêve pour l'After. Casting du soir, bonsoir Jonathan Macardy. Bonsoir Ludovic Obraniak.
Bonsoir à tous.
Ah oui, là on est sur un affaire de l'élégance, très clairement. Ah ben, alors là franchement, là je me croirais un conseil des ministres. Presque.
Voilà.
En tout cas, l'ambassade, je ne sais pas de quelle ambassade en France. Le sommaire, messieurs, beaucoup de choses ce soir évidemment. Alors, pauvre soirée de Ligue 1 en but. 4 buts ce soir en Ligue 1 pour les matchs de 20h en 5 matchs. 6 avec le nul de Marseille à Metz.
Ça pique, hein.
On parlera tout de suite de Toulouse dans un instant. Catastrophique Toulousain, ambiance délétère, supporters qui descendent de la tribune, 8e défaite consécutive. Où va Toulouse? En Ligue 2 sûrement. Est-ce que c'est possible encore d'éviter la relégation pour ce club de Ligue 1? On en parle bien sûr ensemble, comme Boiré n'a rien changé. On parle également des victoires de Nantes et de Reims qui rigolent ce soir, hein, respectivement 4e et 5e de Ligue 1, grâce à leur victoire 1-0. On parlera de Nice également, qui stoppe l'hémorragie, qui est resté sur 6 défaites à l'extérieur et qui arrache un point ce soir, les Niçois, et puis également à Brest. Et puis également, nous parlerons de Metz OM, bien sûr, bon ou mauvais point pour l'Olympique de Marseille. On en parlait Jonathan et Ludovic. Et également, cette lettre ouverte rédigé par les Bad Goons à Memphis Depay. On vous lira de larges extraits, effectivement, c'est très intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez, messieurs, les explications enfin des Bad Goons qui sortent du silence.
Positive ou je l'ai pas lu?
Moi, je la trouve plutôt positive.
D'accord.
Plutôt intéressante. Mmh. On en parlera avec vous, messieurs, à partir de 22h45, 23h, et puis les drôles dames, bien sûr, hein, avec le quart des cartons du Bayern Munich et du Borussia Dortmund et du RB Leipzig. Ça y est, les gros remontent au classement en Bundesliga. Les drôles dames seront avec nous. Mais d'abord, comme tous les samedis soirs dans l'After, l'essentiel, c'est les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Jonathan.
Premier point, c'est le football à Toulouse qui est en train de décéder. Alors on va pas parler forcément des joueurs, pas forcément parler de l'entraîneur, mais je pense que le problème est latent, c'est un problème qui est structurel, qui vient de la part de la direction.
Ah bon?
Donc il y a
pas, on va pas parler un petit peu
gros,
de
l'an, un petit oui, peu on de l'an, parler, mais je pense que le problème principal, c'est aussi un problème de structure. Oui. Et il y a une sonnette d'alarme que les supporters tirent peut-être d'une manière un petit peu maladroite, mais qu'il est important de tirer. Le deuxième point, c'est Amiens qui prend un match nul. On avait discuté la semaine dernière de savoir si Elsner continuerait à vraiment jouer l'offensive, à être hyper ambitieux, et s'il fallait pas peut-être un petit peu faire une boutique. Là, je trouve qu'ils ont fait un match qui a été sérieux tactiquement, peut-être un petit peu moins d'allant offensif, mais c'est un point qui, à défaut d'être dans les 3, est quand même important pour stopper l'hémorragie. Et le troisième point, c'est le point pris par l'Olympique de Marseille. Écoute, je pense que c'est, franchement, hein, on va pas, c'est pas parce qu'on a été habitué à manger du caviar ces derniers temps, mais je pense que c'est 2 points de perdu du fait d'un manque d'implication et de concentration, je pense, en première période, mais on aura le temps de reparler tout à l'heure.
À 10 contre 11, c'est un bon point quand même.
Ludo, tes 3 points.
Mon premier point, il va aller sur ce garçon dont on parle depuis quelques semaines, mais qui je trouve exceptionnel. C'est Larssoner, le gardien de Brest, qui est vraiment en train
Parlons-en.
De. C'est un grand talent. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un gardien de cette qualité-là dans notre championnat. Voilà, c'est la relève clairement. Mon deuxième point, c'est pour taquiner un peu Jonathan avec Morgan Sanson New Level.
Ouais.
Voilà où, où Jonathan le chambrait par rapport à ça. Je crois qu'il est vraiment en train de passer un cap, ce garçon.
Là, c'est clair, ouais.
Et il a été excellent sur le match. Et puis mon dernier point, c'est bien sûr la faible influence de buts marqués ce soir. 0 but en seconde période.
Mon Dieu.
Moi, je veux bien qu'on travaille techniquement, tactiquement, qu'on travaille physiquement. À un moment donné, il faut faire travailler les mecs devant le but aussi.
Il y avait des occasions.
Il y a une flopée d'occasions qui sont pas converties, et alors que c'est pas vraiment, c'est pas les occasions qui sont. hyper compliqué à mettre.
Putain, t'as failli tenir là le
ouais, t'as vu ça. Mais nous on progresse les gars.
Oh, bravo.
En général, c'est deux minutes de plus. Là, on y est. Là, on avance. On est quoi? On est quoi? On est le 14 décembre. Ouais. Je t'annonce qu'en mai, il fait ça en 15 secondes.
Bravo.
Tu verras. Voilà le programme et le cadre est planté, le décor est planté en tout cas pour cet after. On est ensemble jusqu'à minuit. Bien sûr, je vous rappelle qu'on parlera de Lyon. Appelez-nous, supporters lyonnais, des Bad Gones également, au 32-16. On accordera 15 bonnes minutes à l'Olympique lyonnais et à la lettre ouverte à Memphis Depay.
On en a eu hier, mais c'était pas forcément très clair.
On va voir ce soir. C'était plus clair. Ouais. C'était pas très clair hier, effectivement. Et puis, on va également évoquer, appelez-nous supporters marseillais au 32-16, hashtag RMC Live. Appelez-nous également supporters niçois, supporters toulousains. Parce qu'on commence par Toulouse surtout. Ouais. Le hashtag RMC Live et l'application Direct Studio. Toulouse, messieurs, battu 1-0 par Reims à domicile. Rémi Houdin à la 9e minute de jeu. Reims, on en parle dans un instant. 8e défaite consécutive. C'est extrêmement rare comme série pour le TFC. 20e de Ligue 1. 12 points après 18 journées. Voilà. Bon, les gars, je vous pose la question tout net. Est-ce que Toulouse y va tout droit?
Oui.
Pas de débat?
Bah, il faudrait un sursaut d'orgueil vraiment incroyable.
Une série de 4-5 victoires.
En seconde partie de saison pour. Mais quand tu vois, en fait, la spirale qui est négative, quand tu vois les joueurs qui ont l'air d'avoir totalement la tête sous l'eau, quand tu vois l'entraîneur qui est totalement perdu et quand tu vois que la direction est apathique, amorphe,
absente.
ne fait rien pour aider le club à s'en sortir, tu te dis que aucune des conditions n'est réunie pour que Toulouse se sauve. Alors, il faut jamais dire jamais parce qu'on a un championnat un petit peu fou. Mathématiquement, ils sont pas non plus encore totalement largués. Il y a un mercato cet hiver. Il y a des possibilités de faire des choses. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que la direction, comme Ludo l'a dit, est absente.
Tu as raison. Toulouse est à 4 points de Amiens 18e, hein, barragiste.
Tu te rends compte? Déjà 4 points. Hein, c'est déjà énorme. Et imagine sur Strasbourg. Strasbourg qui n'a pas encore joué et qui doit être 14 ou 15e.
15e, ils sont à 9 points de Strasbourg.
Voilà. 15e. Imagine si Strasbourg gagne.
Ça va se jouer à 5, hein. Dijon, Metz, déjà, Amiens, Nîmes, Toulouse.
Tu es déjà quasiment à 10 points à la trêve du 15e. Ça se complique, hein. Mais il faut proposer autre chose. C'est-à-dire que quand tu regardes cette équipe sur le papier, il y a des choses quand même à faire. Je regrette. Il y a quand même des joueurs de alors je vais pas dire de grands talents dans cette équipe, mais il y a quand même des joueurs qui sont capables d'exister en Ligue 1. Après, il faut leur proposer quelque chose. C'est sûr que quand t'as un nouvel entraîneur et que t'es dans le marasme ambiant du mauvais début de saison, tu viens de le départ de Casanova et tout, les joueurs, faut leur proposer un projet, quelque chose qui puisse les faire sortir justement de cette torpeur, d'avoir un peu de plaisir, d'allant. Et c'est sûr que quand les premiers mots de ton coach qui arrivent, c'est on va faire de la bagarre parce que je remarque que on prend énormément de buts et que moi mon projet c'est d'aller au front et à la guerre. Ben je sais pas si tes joueurs t'arrives à les embarquer avec Ludo, toi simplement avec cette
c'est que ça.
Attends, rappelons-nous
c'est que ça qu'on vraiment. Ben,
c'est que ça.
Rappelons-nous le premier match. Ça comprend la composition d'équipe. Il jouait, il avait sorti un 4-4-2 qui était
mais
assez intéressant.
Mais tu jouais deux devant et c'était intéressant. Mais ça a jamais duré.
Le problème c'est qu'il a pas duré. Alors quand Ludo a raison sur une chose, c'est que quand je regarde la composition de l'effectif, il y a quand même des joueurs qui peuvent faire mieux. Koulouris associé à Sanogo, c'était une bonne idée. Il aurait peut-être fallu essayer de continuer de faire ça, quitte en essayant de solidifier peut-être d'une manière différente ton milieu de terrain. Mais c'est une association qui marchait bien. Un joueur comme Jean-Victor Makengo, pourquoi il n'est pas titulaire? Quand tu vois le dynamisme qu'il peut apporter au milieu de terrain, dans le combat, dans la récupération, mais aussi dans la qualité technique, c'est un joueur qui doit jouer. Quand tu vois un joueur comme Wesley Saïd qui a été acheté une somme de
7 millions d'euros, c'est énorme.
On sait que c'est un joueur de qualité, c'est anormal de le voir aussi apathique. Donc, il faut que l'entraîneur propose quelque chose qui remobilise un petit peu les troupes. Il y a de la qualité dans cette équipe, mais le problème,
un projet de jeu,
c'est que c'est le club dans son ensemble qui est amorphe.
Il faut un projet de jeu, les joueurs, faut les embarquer avec toi, faut leur proposer quelque chose. Si tu leur dis juste, bon les gars, on va mettre des tampons, et puis c'est terminé, comment tu veux motiver les gens?
Regarde, Thomas, même supporter. Le premier match à deux devant, ouais. C'était autre chose.
Oui, mais après, il y avait l'effet, nouveau coach et tout, il y a victoire face à Lille, effectivement,
ça a duré, deux matchs.
Thomas, supporter du TFC, est avec nous. Bonsoir, bienvenue dans l'after, Thomas.
Ouais, bonsoir.
Salut Thomas. T'étais au stade, je crois.
Oui, ben là, j'y suis encore. Là, je suis encore sur le parvis. Ça, je vous dis pas.
Vas-y, dis-nous. Raconte-nous un peu ce que l'ambiance que t'as vécu également, quoi.
Eh ben, l'ambiance, il y a que les Indiens, c'est la 60e, 65e. Hein. Ils ont décidé de partir. Le seul groupe de supporters qui reste à Toulouse, ils ont décidé de partir et vouloir régler compte avec Sadran. Après, c'est sûr, en venir là, c'est nul. Mais c'est nul d'en venir là. Peut-être la violence, ça résout rien. Mais en même temps, toute la situation dans laquelle on est. C'est lui qui l'a voulu. Il nous a mis un incompétent en haut du navire. qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on coule. On y va tout droit. Soukas, c'est un rigolo. On l'a vu, ça fait plusieurs années. La cellule de recrutement, c'est que des copains. On fait venir les copains. Et voilà. Voilà où on en est maintenant. On fait venir des joueurs, peut-être qu'ils sont pas au niveau. On n'a rien. Là, je suis sur le parvis. Je vous dis un truc. Il y a même la police qui arrive. Il y a les CRS qui débarquent.
Ah oui.
Pour venir protéger les joueurs. Bon, c'est pitoyable. Il y a des gamins autour de moi. C'est pitoyable. D'en venir là, c'est nul.
Mais tu sais quoi, Thomas? Je vais peut-être être un peu sévère, mais ce que je souhaite finalement à ce club, c'est qu'il se casse la gueule une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que tu descendes et que tu en tires les enseignements et qu'il y a un électrochoc, quoi. Qu'il y ait quelque chose. Parce que ça, ça fait maintenant combien de saisons que le Toulouse Football Club frôle pas le ridicule, mais tu traverses les saisons dans l'anonymat.
Ça fait 6 ans, Ludo, tu n'as pas fait top 10 en Ligue 1.
Tu frôles à chaque fois la descente. À chaque fois, t'arrives un miracle à te sauver. Et ça m'embête de dire ça, Thomas, mais il faudrait presque en arriver là, tu vois, pour qu'enfin il y ait un électrochoc qui se passe quelque chose.
Je vais vous dire, le problème de ce club, c'est quand on regarde les saisons où ça a bien marché. Rappelons-nous de l'année avec André-Pierre Gignac, avec Elie Boulay, l'année avec Elmander. Mmh. En fait, c'est un club qui n'a jamais su trouver de modèle, n'a jamais su trouver quel paradigme suivre, c'est-à-dire essayer de quelle identité tu veux incarner en tant que Toulouse Football Club. Et à un moment, rappelez-vous, c'était la tour de Babel dans le recrutement. Il y avait il y avait la mode des joueurs qui venaient des pays de l'Est. Il y avait un vestiaire qui était totalement hétéroclite où plus personne ça pouvait se comprendre parce que personne parlait la même langue. Après, ils ont essayé de recentrer en faisant peut-être un recrutement un petit peu plus Ligue 1. Le problème de Sadran, c'est qu'il n'a jamais été capable, dans la période récente, d'impulser une ligne directrice à ce club-là, de dire, alors je dis ça au pif, hein, mais de dire on va miser sur la formation, on va miser sur la post-formation, on va miser sur des vieux briscards de Ligue 1, on va peut-être axer notre recrutement sur les meilleurs joueurs de Ligue 2. Et ça rejoint ce que notre auditeur, excuse-moi, Mathieu, Thomas. C'est ça, Thomas disait, c'est qu'à la tête de ce club-là, c'est les copains qui gèrent la cellule de recrutement. On prend un petit peu les joueurs qui vont arranger les uns et les autres sans avoir de ligne directrice claire. Et là maintenant, s'il faut quelque chose pour sauver ce club, donc oui, effectivement, peut-être Ludo, t'as raison, peut-être se casser la gueule une bonne fois pour toutes pour faire un électrochoc, mais moi je pense même pas que ça suffirait, parce que le problème il vient encore d'au-dessus. C'est que Sadran n'y connaît rien au foot, est désintéressé par son club de foot et incapable de donner cette impulsion qui fait que le club se restructure de manière intelligente.
Thomas, dans quel joueur tu te reconnais aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a un qui te... Oui, bah, il était pas là.
Il y en a peut-être un, deux ou trois. Il y a René qui est pas mauvais, voilà.
C'est un bon gardien, hein.
René, qui est un bon gardien. Il y a Bogard qui mouille le maillot, parce que pourquoi, c'est un mec du cru.
Et c'est lui, et voilà, qui sort. Et c'est lui qui sort en plus. C'est lui qui sort.
Dosévi, peut-être. Mais après, on va se casser la gueule. Mais non, il va nous remettre un petit Casanova, là. Il va nous faire
un
petit
Casanova.
Casanova, c'est terminé.
Casanova,
ça sera
Elibop,
à mon avis, mon pote.
Elibop, il aurait fallu un mec du cru. Il fallait un mec comme
Pélissier.
On est allé chercher des guignolos. On va chercher des guignolos dans ce club. On cherche la consanguinité. Sadran ne gère plus rien.
Mais la consanguinité, la solution évidente, c'était Christophe Pélissier.
Christophe Pélissier ou un Elibop. Mais là, le problème qu'il a, Sadran, c'est qu'il ne gère plus rien. On dit Sadran. Vous l'avez vu, Sadran? Vous avez entendu parler de Sadran?
Alors justement, Thomas, justement, moi j'ai envie de lancer un appel, dans le vide, hein, je pense. Hein,
Qui
parle, cet homme?
Avis
qui parle un jour, cet homme, parce mais que pas pour nous, hein, mais pour les supporters également.
Et il a pas perdu l'usage de la parole.
Il a disparu totalement des médias
accident.
Depuis des années.
Il a perdu l'usage de la parole, je sais pas.
Et malheureusement, moins tu parles, plus tu t'exposes aux critiques. Thomas, vas-y.
Mais non, mais c'est triste, je vous jure, c'est triste. Ça fait 20 ans que je supporte ce club. J'en ai marre les lundis d'arriver au boulot, que tout le monde se foute de ma gueule en me disant.
J'habite où, Thomas?
Et ils ont fait quoi, Toulouse? J'habite à Castelnaudary, juste à côté.
Non, c'est
de Toulouse.
À côté, oui, bien sûr.
Je me pèle 1 heure aller pour aller au stade et 1 heure retour. J'aime ce club, j'aime cette identité. Je peux pas me voir supporter un autre club. Mais qu'est-ce que ça fait mal au cœur? Je vous jure. Ça fait mal de passer ces week-ends à prendre des tannées, à se faire latter par Reims. Reims à la maison, c'est cadeau.
Thomas, on n'a pas regardé le match en intégralité parce que c'est le multiplex, mais au moins, est-ce que dans l'état d'esprit, il se passe quelque chose?
Non, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est le néant, on frôle le néant.
Et Thomas, dernière question pour toi. Toi, qu'est-ce que tu aimerais pour la fin de la saison là? Comme Ludo a dit, que ça se casse la gueule pour faire un espèce de cataclysme. Qu'est-ce que t'aimerais?
Tu sors comme
la direction se barre, qu'on change tout, qu'on change de cellule de recrutement. Quitte à prendre des pilules tous les week-ends et finir dernier, à changer un truc. C'est quelque chose qui bouge.
Il faut qu'il vende Casanova. Je comprends pas pourquoi il garde le club. Hein.
Voilà. Ça dort. Merci Thomas. Tu reviens quand tu es dans l'after, bien sûr. Et appelle-nous. Ça fait du bien aussi d'appeler l'after quand les temps sont durs comme ça. N'hésite pas.
Merci à vous.
Bien sûr. N'hésite pas. Younes également, supporter du TFC, est avec nous. Habituel de l'after. Salut Younes.
Salut à tous.
Salut, salut mon pote, ça va?
J'écoute Thomas, j'ai envie de le prendre dans mes bras tellement il me fait de la peine.
Eh bah vas-y,
on est les gars. Retrouvez-vous tous sur le hashtag RMC Live ou le compte Twitter de l'After et faites-vous une communauté.
Non mais Younes, il est au stade aussi.
T'es au stade, Younes?
Bah oui, j'en sors là du stade.
Eh bah donne rendez-vous à Thomas, il est sur le parvis, vous faites un câlin.
Ouais, non mais je suis trop loin là, il est sur le parvis, moi j'ai pris la route, je me suis arrêté, je me suis garé à l'arrache et je suis en train de...
Bon, Younes, c'est Ludo, déjà un instant, il faut que tu bouges,
je vous écoute, je vous écoutais vite fait. Juste, est-ce que vous avez vu le but?
Oui.
Voilà, bon, ce mec-là a été recruté 2,5 millions d'euros dans un championnat de Russie, il est uruguayen, ce mec vaut rien. C'est pas possible qu'on puisse voir... Ouais.
Rogel.
Ouais, en fait, je peux même pas l'appeler Rogel parce que c'est Roger en fait. C'est Roger. Voilà, c'est Roger du 5e. C'est pas possible. Ce mec-là, bon, bref.
Celui qui va avoir ta femme quand t'es pas là, c'est ça?
On va aller. Ouais, salaud. Non, Joe, je peux me permettre avec Joe.
Ouais, ben oui, Younes, tu peux. T'inquiète.
Qu'est-ce que je voulais dire? Non, on va parler plus en profondeur de ce que vous étiez en train de dire. Ludo, je suis d'accord et pas d'accord avec toi quand tu dis ouais, faudrait peut-être que le club se casse la gueule et tout. Mais si le club se casse la gueule et qu'il garde tous ses copains, parce que ses copains, ils vont jamais démissionner. Les arribagés, qui va vouloir d'un arribagé? Qui va vouloir d'un Syrien? Qui va vouloir d'un Soukha?
Tu pourras pas payer tout le monde, hein. Si tu descends, attention, hein, les coupes budgétaires, tu pourras plus garder les copains, hein, tu sais, après.
Non, mais ce que je veux te dire par là, c'est que descendre en soi, ça serait une bonne chose pour remettre les compteurs à zéro, tu vois. Mais les compteurs à zéro, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Il va garder tous ses copains. Il y a un article qui est sorti dans l'équipe. Moi, il y a une phrase qui m'a... Franchement, elle m'a choqué, cette phrase. Donc, t'as l'équipe qui appelle Soukas et qui lui dit, bon, est-ce que vous voulez... On va sortir un article. Est-ce que vous voulez réagir? Le mec dit, sortez l'article et je réagirai peut-être après l'article. Le lendemain, ils ont appelé Sadran. Sadran qui a dit non, le timing est trop tardif pour m'appeler. Vous m'appelez trop tard. Et Arribagé, carrément, lui, il a décliné l'invitation. Ouais. Donc c'est pour te dire que ça marche à l'envers. Déjà, le président et le président délégué, qui est Soukas, ils sont même pas au courant.
C'est quand même bizarre.
Voilà,
hein.
Donc déjà, ils communiquent même pas entre eux pour savoir ouais, est-ce qu'on intervient, n'intervient pas, est-ce qu'on dit quelque chose ou pas. Parce qu'il y a quand même deux pages sur l'équipe sur le TFC, c'est quand même énorme. Moi, je vais vous dire juste une chose. Je vais vous citer les entraîneurs du TFC depuis 20 ans. Moi, je suis abonné depuis 20 ans. Depuis, bon,
vas-y.
J'allais au stadium avant l'ère Sadran, mais je suis abonné depuis 20 ans. On a eu Mondert, Elibop 2 ans, on a eu Casanova plus de 10 ans, Camboré, et je vous rajoute Debève et Arribagé qui ont fait
une pige. T'as raison, hein, l'intérim de Michel Debève.
Vous rendez compte quand même des coachs? C'est un truc de fou.
Ça manque d'originalité quand même.
J'en ai parlé la semaine dernière avec Gilbert et Daniel. Pilissier, il était chaud pour venir. Le mec, il est supporter du TFC. Il est de la région.
C'est
il est bien, le mec. Mais le mec, il veut venir avec son staff. Mais au TFC, c'est pas possible. On t'impose le staff. Tu vois, on t'impose les Issoudao, on t'impose
le
recrutement. On t'impose tout le monde.
Parce que là, ça aurait eu une autre gueule d'avoir Pilissier. Hein.
Comment?
Ça aurait eu une autre gueule d'avoir Pélissier qui est un vraiment entraîneur français.
Ça aurait été du football. Là, on a rien vu. Jo, tu parlais de Makengo. Makengo, il est passé de titulaire indiscutable sous Casanova, et tout ça sous Casanova, il est passé de titulaire indiscutable à banni. Donc là, tu sais, c'est un truc que tu comprends pas. Il s'est passé quoi? Tu sais pas. Et ça, c'était déjà avec Casanova.
Il démérite pas sur le terrain en plus. Moi, je le trouve plutôt bon. Hein, moi, je trouve bon quand il joue, Makengo.
Eh ben tu sais, on a deux victoires à domicile et Makengo a été titulaire sur ces deux victoires. Il a marqué un but, je crois, peut-être même un deuxième, mais je suis pas sûr. Mais il a pas été mauvais, tu vois. Donc c'est catastrophique. On a des latéraux, on a jeté Michelin et on a jeté Cafaro par la fenêtre. On les a pas. À chaque fois que les mecs ils viennent, ils nous mettent la misère quand ils viennent chez nous, tu vois. Michelin qui te dit je préfère jouer la montée en Ligue 1 que plutôt que le maintien avec Toulouse. Et tu peux le comprendre, le mec. Tu peux le comprendre.
C'est
scandaleux. Le timing, il est dégueulasse. Les mecs, ils te disent, ouais, Corentin Jean. Bon, il revient de blessure. C'est pas Maradona, le mec. Hein. Franchement, ça fait.
Ouais, mais ça va, ça va.
Bon, il y a meilleur, mais bon, on peut quand même le garder. Ils te disent, oui, on va le prêter à Lens. Oui. Ouais, mais t'as Gradel qui vient de se péter pour 2 mois. Tu fais quoi?
C'est pas vraiment le même profil d'un côté.
Non, c'est pas le même profil, mais au moins c'est un joueur offensif. Wesley Saïd, c'est pas 7 millions les gars, c'est 8 millions, c'est le record.
Putain.
C'est le record du club. C'est le joueur le plus cher du TFC.
Ah ouais.
Wesley Saïd, c'est une pipe ce mec.
Bah tu vois, non, tu Younes, tu peux pas dire
non,
ça parce que on l'a déjà vu
le, ce mec là,
il était bon l'année dernière.
Ouais, l'année dernière, il était bon avec Dijon. Tu t'imagines qu'on est allé poser 8 millions d'euros, c'est-à-dire oui. peut-être pour des clubs comme Lyon, pour Marseille.
Non, non, mais on
etc.
est d'accord que le prix est démesuré par rapport au rendement du joueur, il y a pas de souci.
Le mec, tu t'imagines, il a 4 buts et 3 passes ou 3 buts et 4 passes avec Dijon et tu mets
ah, 8 millions, gros, c'est...
et tu lui donnes un salaire de malade et tu fais
il
venir ce mec.
Il a combien Younes?
Ah, je sais pas franchement, bon, il doit être à plus de 100 parce que déjà on a Sangaré, il est à 100.
Sangaré, il a 100.
Tu t'imagines? Sangaré, il est à 100.
Vas-y, Younes, conclue. Vas-y, faut qu'on y aille.
Conclue, franchement, on y va tout droit.
Okay.
On est à 8 défaites consécutives. On a battu notre record, je crois, qui était de 7. Et on va battre notre record la semaine prochaine avec une 8e défaite. Je sais même pas chez qui on joue, tellement le calendrier, je le regarde.
Alors,
même
je te
plus.
Le dis, hein, moi.
Et on va y aller.
Lyon. On va y aller. Lyon en Coupe de la Ligue, d'abord. D'abord, il y aura Lyon en Coupe de la Ligue. Hein.
Ouais,
à Lyon.
De la Ligue.
Et tu vas à Nice, Nice-Toulouse.
Et on va à Nice et on va prendre une fessée à Nice.
Autant te dire que si tu finis à 12 points à la trêve, là,
ouais, c'est un peu compliqué, ouais.
Et là, t'es mort. Et là, non, par contre, juste une chose. Avec Montberts, on finit à la trêve avec 12 points et on arrive à se maintenir. Ouais, je sais pas en quelle année c'est
pas tous les jours à Noël, Younes.
Mais après, c'est la dynamique.
Bah, Younes.
C'est pour que là, on montait en Ligue 1 et on avait des joueurs.
Juste deux secondes, Younes. Younes, juste deux secondes. Sur le coach, toi, qu'est-ce que t'en penses?
Mais le coach, c'est pas possible. Tu sais ce qu'il te dit au début du match? Tu sais ce qu'il dit? Attends, je te dis juste une phrase. Début de match, Camboiré, enfin avant le match, il dit l'objectif, c'est un point pour accrocher la 18e place.
Voilà.
Tu reçois Reims à domicile.
Oui.
Tu reçois Reims.
Et
ton objectif, c'est un point.
C'est terrible.
Il en est là. Merci Younes.
C'est bon.
Ciao,
c'est...
Younes.
Mais attendez, juste une dernière chose.
Allez,
un
vas-y.
Gros bisou. Une grosse dédicace à tout le RC Muret.
Il a marqué ton petit.
Non. D'ailleurs, juste un truc. Aziz. C'est pas bien, t'as pas fait tirer mon fils sur le coup franc.
Voilà.
Et il m'entend, il est dans sa voiture.
Mais non, je l'ai
vu passer en voiture.
C'est pas un de ses parents qui réclame que son fils
ait fait
tirer le coup franc, même pas. On en est pas là. Allez, Younes, excellent soir.
Younes, ciao, Younes.
Bye, Younes. Salut, on revient dans un instant.
Ciao.
On est ensemble jusqu'à minuit avec Ludo et bien sûr Jonathan. Gros programme encore à venir, bien sûr. On va évoquer notamment les victoires minimalistes et précieuses de Reims et de Nice. 5e et 4e de Ligue 1, respectivement. 7e victoire 1-0. Des sommes de Christian Gourcuff efficaces. Les supporters réclame des joueurs en mercato pour enfin également produire du beau jeu aussi. Parce que si tu produis du beau jeu et que tu gagnes, alors là, Christian Gourcuff va devenir le roi.
Ah, et toi, il se démarre pas si mal.
Le roi,
ils sont quatrième ce soir.
Quatrième de Ligue 1, hein, ce que je te dis.
Ouais, bah, c'est quoi cool, et on peut pas avoir. Et il faut savoir d'où.
Le beurre et l'argent du beurre.
Attends, et le cul à
savoir d'où. Abdou, supporter d'Antilleux 32-16, supporter Rémois également, 5e de Ligue 1. David Guillon, qui s'est imposé à Toulouse ce soir, qui a dit ce soir, mes joueurs ont joué un tour en dessous. Ils ont gagné à Toulouse 1-0. C'est terrible pour Antoine Camboiré et ses hommes. Allez, à tout de suite. Lyon également au programme et l'Olympique de Marseille. À tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Jamain.
Avec Jonathan Macardy et avec Ludovic Obraniak. Bien sûr, on est ensemble jusqu'à minuit. L'After est là. Et appelez-nous au 32-16. Supporter lyonnais. Après la lettre ouverte à Memphis Depay. La lettre des Bad Gones, que je vous lirai. En largeur quand même. Tout à l'heure, on prendra le temps d'en parler. C'est assez intéressant. Leur première communication depuis cette soirée de Ligue des Champions et de qualification pour les 8e de finale. De la C1, supporter marseillais également dans un instant le débrief, Metz, OM avec Jonathan et Ludo. Nantes et Reims. Tiens, on va coupler les deux. Appelez-nous supporter nantais, supporter rémois, bien sûr. Nantes s'impose 1-0 ce soir. 7e succès 1-0 des hommes de Christian Gourcuff, qu'on pensait un petit peu, enfin, clairement en perte de vitesse avec ses 4 défaites consécutives. Et voilà que Nantes reste sur 3 victoires en 4 matchs. La défaite, c'est contre le PSG, rien d'infamant. Victoire 1-0, but de Imran Louza à Nîmes, bien sûr. Salut Xavier, supporter du FC Nantes.
Bonjour tout le monde.
Salut Xavier. Et bienvenue dans l'After.
Merci.
Bon, et t'es 4e de Ligue 1 ce soir,
mon pote. Vas-y,
t'es 4e de Ligue 1.
Oui, tout à fait. Mais bon, 4e de Ligue 1 pour un club comme Nantes, ça devrait être normal, n'est-ce pas?
Oh là là, alors je sens qu'on va s'en prendre là. Alors attends. C'est toi qui as déjà appelé il y a genre 2 mois là, qui nous avait dit vous respectez pas Nantes, tout ça, non, c'est pas ça?
Tout à fait, tout à fait.
Ok, alors Xavier.
J'assume mes propos.
Bon, Xavier, je vais te laisser parler tout de suite. Je te rappelle.
Allez, dis-nous.
Que Nantes est 4e de Ligue 1. Effectivement, un championnat extrêmement resserré. Hein, tout peut aller très vite. On voit avec Angers de la 2e à la 12e place. On dit pas que Nantes est un petit club.
Non, mais on dit que Nantes aujourd'hui n'est pas un top 4 Ligue 1. On parle de l'actualité.
Donc, disons que Nantes n'a pas le budget que qui
à la hauteur de son standing. Mérite.
Voilà. Voilà, vous avez trouvé les mots. Donc ce soir, moi, je vais savourer, comme j'en discutais avec un supporter avant que vous m'appeliez, je vais savourer les 3 points et la 4e place. Voilà. Parce que au niveau du jeu, surtout en deuxième période, on n'a pas vu grand-chose.
Bah, t'as raison. Ouais, c'est totalement raison, Xavier. Le problème, c'est que tu sens quand même, on sent quand même un petit peu ce que, bah, ça on le dit depuis des mois. Hein, on sent ce que Gourcuff veut mettre en place. Il y a des joueurs qui, à mon sens, sont en train de faire beaucoup de progrès. J'aime beaucoup vos côtés avec Simon et Bamba. C'est pas forcément très propre techniquement, mais dans le dynamisme et dans la volonté, c'est quand même intéressant.
Il y a une paire de clubs de Ligue 1 qui aimeraient les avoir.
Oui, vas-y Xavier. Juste une dernière. Beaucoup aussi, c'est je trouve que Blas fait petit à petit commence à faire des bons matchs, positionné comme ça derrière Koulibaly. Je trouve que c'est intéressant. Maintenant, il y a un mercato.
Est-ce que vous l'avez vu en deuxième période, Blas?
Non.
Il était aux abonnés absents. On se demandait même s'il était sur le terrain.
Oui, ça. Oui, mais bon.
T'es dur. Un peu dur, Xavier. Il crée 2-3 décalages. Il essaie quand même.
Non, mais t'as raison.
Je suis pas dur.
Xavier,
je suis pas dur.
Il revient.
Alors, Blas voulait franchir un palier en venant à Nantes. Alors, franchir un palier, c'est d'être régulier dans les performances. On est d'accord. Et jusqu'à présent, il pèse pas assez sur le jeu nantais.
Enfin, c'est quand même 2 ou 3 buts sur les 4 derniers matchs.
Oui, non, mais il est efficace. Ça fait pas tout.
Mais ça fait déjà pas mal. Quand on sait que vous gagnez les matchs 1-0,
un joueur comme Blas doit montrer autre chose.
Mais un joueur comme Blas, Blas, c'est qui? C'est Cristiano Ronaldo, Blas? À moins que ça m'ait échappé à Guingamp, mais bon, c'est un joueur moyen de Ligue 1. Donc,
qui est intéressant,
et en pleine progression. Donc, je vois pas où il est. Il n'est pas arrivé à Nantes en étant le joueur que tout le monde attendait, qui allait transfigurer la partie offensive du FC Nantes quand même.
Et rappelons-nous aussi comment il arrive et pourquoi il arrive.
Il doit montrer autre chose que ce qu'il montre, par exemple, sur la deuxième mi-temps de Nîmes ce soir et d'autres matchs. Hein.
Alors, c'est vrai. Non, mais là, t'as raison. C'est qu'en première mi-temps, moi, j'ai trouvé très intéressant.
Mais qu'il est plus
dans les décalages, etc.
Bien sûr.
C'est vrai qu'à vers la 60e, il a un petit peu, il a plongé. Après, il a eu une grosse blessure aussi. Je pense que reprendre le rythme, ça va demander un petit peu de temps. Il faut se rappeler dans quelles circonstances il arrive au FC Nantes aussi. Mais c'est un joueur qui pourra te rendre de très forts services dans ce 4-2-3-1 ou 4-4-2 un peu hybride de Christian Gourcuff. Positionné dans l'axe comme ça.
Alors,
c'est un joueur qui est intéressant.
Moi, je pars dans cette optique-là, donc on va voir à l'usure, on va voir dans le temps.
C'est ça l'histoire, c'est que Xavier, t'es un supporter historique du FC Nantes, hein, t'as connu les générations Suodo, Denwex.
Ah oui, Jean-Vincent.
Jean-Vincent, Harry Bass, voilà.
Harry Bass, un petit peu trop jeune.
Non, mais voilà, maintenant t'as mangé du caviar, les gars.
C'est à quel âge, Xavier?
Tu repenses à ça, tu prends une claque.
Je vais avoir 52 ans.
D'accord.
Bon, voilà, mais Nantes, moi, personnellement, j'y ai passé 4 ans, et effectivement, tu mesures à quel point, quand tu vis là-bas et que tu bosses sur le club, à quel point ce club est empreint de son histoire. À quel point.
C'est normal.
Répète, à l'envi. On a créé une façon de jouer avec Harry Bass au départ, relayé par Vincent, par Denwex.
Ce que je peux reprocher.
Et qu'aujourd'hui, c'était hyper exigeant à Nantes, j'ai l'impression. Non, peut-être un peu trop parfois d'ailleurs.
Nico, ce qu'on peut reprocher au président Kita, c'est qu'il n'a pas travaillé dans la continuité de ce qui se faisait. Il a voulu marquer une rupture à son arrivée avec ce qui était.
C'était avant aussi, avec
Grippon, le FC Nantes. Et je pense que c'est une vraie erreur stratégique de sa part.
Ça, t'as raison. Ouais. Mais alors,
là, il a appelé Pascal Moi, pourtant.
Xavier,
oui,
les gars.
Le problème.
Xavier. Moi là où je suis quand même un petit peu optimiste pour le FC Nantes, c'est que je pense que Kita, la famille Kita, ont fait beaucoup d'erreurs dans le choix des hommes. À un moment, ils ont goûté un petit peu n'importe qui, et on se rappelle des rapprochements avec certains fonds d'investissement portugais. Et ce que les petits bruissellement qui avaient sur les rachats.
Ça avait commencé avant. Je vous rappelle avant ça, il y a eu la Soc Presse avec Jean-Luc Grippon.
Il y avait
après,
aussi
Rudy Roussillon. Après, il y a eu Valdemar.
Il y avait aussi à un moment Guy. Je ne me rappelle plus son nom. Guy quelque chose. La personne qui était à la tête de Big Malion. Rappelez Big Malion. Guy
Scherer.
Non. Bon, qui donnait des conseils au président Kita sur le recrutement, ce qui était quand même un petit peu
Pascal Poix.
Non, la personne qui était PDG de Big Malion.
Ah. Oui, j'ai plus son nom.
Galvez, je crois. Donc, dans un moment, c'était un petit peu n'importe quoi. Là, ce qui me laisse un petit peu optimiste, c'est que j'ai l'impression, c'est peut-être une impression, mais que ça se passe bien entre Christian Gourcuff et sa présidence.
C'est déjà hyper surprenant.
Je pense que peut-être que les Kita se rendent compte que Gourcuff, c'est la chance d'enfin renouer avec l'héritage glorieux, le passé prestigieux du FC Nantes. Et que peut-être, cet hiver et cet été, eh ben, il y aura peut-être un petit peu un climat qui sera apaisé et qu'on donnera les clés du camion définitivement à l'entraîneur qui est Christian Gourcuff.
Attends, Ludo. Ludo et après Xavier.
C'est un vœu pieux, mais j'ai l'impression que ça peut peut-être se passer là.
Ludo, je trouve que ce qui se passe à Nantes est quand même assez formidable. Au vu de l'effectif, quand même, les amis. Regardez quand même l'effectif. Les deux sur les côtés, personne ne les connaissait quasiment avant qu'ils arrivent. Nicolas Palois, c'est limite s'ils ne l'ont pas acheté de Bordeaux à un moment donné parce qu'ils n'en voulaient plus.
Louza, c'est un gamin qui joue en division inférieure dans la région.
Koulibaly, c'est un garçon très intéressant dans ses prises dans ses appels, dans ses prises d'espace. Et putain, devant le but, il doit absolument progresser. Donc, marge de progression en plus. Blas aussi, qui n'est pas un joueur extraordinaire, qui vient d'une équipe qui est descendue la saison dernière.
Giroto, je trouve qu'il est en progrès aussi.
Mais c'est pour ça que je te dis, être quatrième avec cette équipe-là, avec cet effectif-là, et ben chapeau.
Bah oui,
chapeau.
Et peut-être que ça va donner envie au président de mettre la main au portefeuille.
Vas-y Xavier.
Je suis d'accord avec Ludo. Je sais pas si on mérite. Enfin, vu par les résultats, oui, on mérite la quatrième place. Mais je sais pas si on va finir. Pour moi, l'effectif du FC Nantes. Pourtant, je suis un supporter acharné. Va aller de la entre la 7 et 12.
Ça paraît cohérent, mais bon,
ils peuvent espérer un peu mieux quand même. Quand tu regardes l'effectif, quand tu regardes l'effectif, moi pour moi c'est plus entre 10 et 14. Mais t'as un facteur X qui est Christian Gourcuff.
Ça va dépendre. Mais alors, je vous avais appelé cet été en disant que Christian Gourcuff c'était l'homme idoine pour le football club de Nantes.
Évidemment. Ah bah oui. Et c'est dingue que Kita y ait pensé si tardivement d'ailleurs, alors qu'il aurait pu le faire bien avant.
Xavier, tu nous en veux moins là?
Allez, un petit peu.
Xavier, je suis content. Ça s'est mieux passé, je trouve, là, qu'il y a deux mois, quand même.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Bon. Tu vois, on est presque tombés d'accord.
S'il faut, la prochaine fois, tu viens, tu nous fais des bisous, tu nous payes des bières après.
Vous savez, moi, le FC Nantes, c'est un peu comme la cinquième membre de ma famille.
Ouais, non, mais je sais. Hein,
Nantes, c'est très important pour moi. Et dès qu'on attaque ma famille, je
sens l'écrou. Mais en plus, on n'avait pas attaqué ta famille, mon pote.
Mesure ta chance, tu pourrais être supporter de Toulouse ce soir.
Ouais, c'est vrai.
Il
a connu la Ligue 2 aussi.
Quand vous êtes quatrième, honnêtement, il y a de quoi avoir le sourire. Hein.
C'est pour ça, je savoure. Ouais. J'avais dit en début d'interview, là, je savoure.
Merci à toi, excellente soirée. Tu reviens quand tu veux dans l'after, Xavier, bien sûr.
Bonne soirée
à toi et ta famille, bien sûr. Axel, supporter nîmois, tiens, pour finir sur ce match Nîmes-Nantes. Salut Axel.
Salut les gars.
Salut Axel.
Bon, alors, Nîmes a autant de points que Toulouse, pour être très clair. C'est vrai qu'on est un peu moins alarmiste sur Nîmes, mais pourtant 12 points après 17 journées. Hein. Nîmes a un match en retard également. Ce sera face à Rennes, c'est ça, Axel.
Ouais.
Bon, au-delà des points et des résultats, c'est le fond de jeu qui est inquiétant, je trouve, à Nîmes.
Il n'y a pas de fond de jeu. Chaque fois qu'on a un ballon, on le balance devant. On est gentil avec le petit Danke, on croit qu'il va tout faire tout seul. Le gamin, il sort de CFA. Après, il est gentil, il court, il fait des efforts, mais on peut rien faire. Après, on a un mec comme Dujlevic, qui est intéressant, qui percute. Non, on le fait. Blacard, il est gentil, il fait rentrer à la 60e. Il faut que ce soit titulaire de suite. Après, on critique le recrutement. Le recrutement, certes, il n'a pas été bon. Mais après, il y a des mecs qui n'ont pas envie, des fois, sur le terrain. Là, les derniers matchs, on s'ennuie. Là, au moins, ça fait plaisir. Ce soir, il y avait de l'envie. Contre Lyon, on a essayé. Bon, l'arbitre, on peut le critiquer, tout ce qu'on veut. Quand ça veut pas, ça veut pas. Quand c'est les grands clubs, on sait comment ça se passe. Ce soir, je suis un peu content du match. Mais après, sinon, dans le fond de jeu, c'est vraiment minable. Il n'y a rien.
Ouais, ça va être dur. On était inquiet déjà en début de saison. Il y a eu un sursaut, tu te rappelles, Ludo, pour les Nîmois. Et là, ça replonge. Pareil, comme à Toulouse, un univers, une direction un petit peu erratique.
Ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ne performent plus à domicile.
Et oui.
Après la direction, on le critique. Enfin, on peut critiquer M. Assaf. Il est critiquable sur ce qu'il a fait. Il y a eu des affaires avec Boissier. On ne sait pas trop ce qui se passe. Assaf, en attendant, il a repris le club. Il était en faillite.
Ouais, on peut dire ce qu'on veut.
C'était compliqué pour lui. Mais là, le club l'année dernière, ça allait très bien. On s'est fait dépouiller au mercato. On
n'a
pas recruté ce qu'il fallait derrière. Mais Assaf, on le critique sur son projet immobilier du stade. Le stade, il faut le refaire. Il tombe en ruine. Là, cet été, il a promis des gros efforts financiers au niveau du mercato. on espère que ça va.
Ouais, enfin,
ça va
Axel, cet été, si tu l'as dans l'os à la fin de la saison, tu rates le coche. Hein, parce que s'il y a bien une saison où il faut rester en Ligue 1, et c'est
là,
celle-là. Hein.
Ah oui, là.
Et c'est à partir de là que tu aurais pu construire en pérennisant le club financièrement, avoir un peu plus de moyens. Mais cette saison-là était particulièrement importante. Des joueurs qui étaient quand même des acteurs importants de la réussite nimoise. Tu pouvais pas laisser partir autant de joueurs. Bien sûr.
Briançon, il y a trop de joueurs qui sont partis. Et le problème en fait dans Briançon,
Bobichon, puis des joueurs qui ont des joueurs qui ont incarné quelque chose, qui a incarné l'état d'esprit.
Mais le problème en fait, c'est que cette équipe qui est sympathique, c'est un club qui est sympathique, les supporters sont sympathiques, il y a aucun souci là-dessus. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, quand ça se passe mal à la tête de ton club, on parlait de Toulouse qui était totalement amorphe dans la direction. Là, on sait qu'il y a un fort conflit entre l'entraîneur, Monsieur Boissier, le président, que ça va pas, qu'il y a des grosses disputes sur la ligne. Pollué le club.
Donc,
sur la ligne
qui
ça a donné. Et ben forcément, ça se traduit par des résultats qui sont forcément médiocres. Et je pense que la réussite du Nîmes de l'an dernier, outre le fait qu'il y avait, c'est la montée, t'as cet engouement, tu commences la saison très fort par des belles victoires, notamment contre l'OM à domicile, c'est que t'avais quand même l'impression que les trois s'entendaient quand même relativement bien. On a vu Boissier au téléphone pendant la saison qui nous expliquait qu'avec Blacard, avec le prénom, ça se passait bien. Et ça s'est dégradé. Et forcément, quand t'as un club qui est un petit peu sur le fil du rasoir comme ça en termes de moyens, si ça se passe pas bien dans ta direction, ça se casse la gueule sur le terrain.
Peut-être que Nîmes doit aussi à un moment donné prendre conscience que ça devient. C'est plus le petit club de Ligue 2. Ça va faire maintenant deux saisons qu'ils sont en Ligue 1. À un moment donné, tu peux pas faire porter le poids de tout le recrutement et de tout ce qui se passe que sur un homme.
Mais surtout qu'il a même pas de style de recrutement.
Ils auraient dû peut-être développer un peu plus pour justement suppléer.
Tu peux pas être un club de Ligue 1 sans cellule de recrutement. Ouais. C'est pas possible. C'est un miracle.
A priori, Assaf a compris intégrer ça. Il va peut-être constituer un vrai staff. Merci, Axel, d'avoir appelé le 32-16. Excellente soirée à toi, Nîmes, qui recevra Saint-Etienne en Coupe de la Ligue en milieu de semaine et ira à Marseille.
Même Briançon, qui est souvent fougueux. Et là, tu le sens éteint.
Dans un instant, bien sûr, on va parler de Reims et surtout de Gauthier Larsonneur. Révélation de la saison pour moi, incontestablement.
Fantastique.
Phénoménal, ce petit gardien, entre guillemets, d'1m80. Et Reims est 5e de Ligue 1. On parlera de Nice rapidement. Et bien sûr, l'OM face à Metz, un but partout. Et Lyon, la lettre ouverte des Bad Goons à Memphis Depay. A tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Jamain.
Avec Jonathan Macardy, avec Ludovic Obraniak, l'after est là jusqu'à minuit, reste avec nous vers 23h30. Trois drôles de dames seront là. Le seul Simone Rovera ne travaille pas ce soir. Nous aurons Fred Hermel, ils sont au restaurant, un restaurant de viande, tu vois, un truc. La grosse pâte là, tu sais, la marmite de carbonara.
Écoute, on le voit lundi, apparemment, il vient lundi au bureau.
Et pour le tirage au sort, effectivement. Pour le tirage au sort des huitièmes de finale.
Moi qui fais les carbonara.
De la Ligue des Champions. Non, tu n'as pas le monopole de tous les plats du monde. Voilà. Dans un instant, on parle de Lyon, bien sûr. Lettre ouverte à Memphis Depay. Lettre ouverte signée des Bad Goons lyonnais, bien sûr. Et puis également, Marseille, le débrief de Metz, OM. Est-ce que cet OM-là est toujours favori pour la deuxième place? Oui, non?
Tu mènes
oui, non,
peut-être là.
Oui, non.
En l'état, je vois Lille revenir fort, moi.
Voilà, c'est ce que j'imagine entendre. On en parle tout à l'heure. Appelez-nous supporters marseillais au 32-16. Appelez-nous supporters lyonnais, bien sûr. Et Reims, d'abord. Reims, encore une fois.
Ouais.
On rappelle, on avait reçu Abdelhamid, là. Il y a un mois et demi. On lui avait dit bravo. Reims, elle a un peu coincé après derrière. Reims reste la meilleure défense de Ligue 1 avec 7 buts encaissés seulement en 18 matchs. Et Reims, aujourd'hui, est 5e de Ligue 1.
Comme Angers, un peu. Ils ont des parcours que tu pourrais superposer.
C'est vrai.
Qui gère d'ailleurs
des séries aussi.
qui sont des très bons clubs maintenant de notre ligue et qui se gèrent très bien, mais c'est vrai que t'as l'impression qu'ils ont un peu les mêmes parcours, c'est-à-dire ils montent très haut puis il y a une période un peu plus
ouais mais c'est quand même assez cohérent
puis ils reviennent
ils ont un truc qui est
10e clean sheet ce soir
ouais c'est ça c'est en termes de c'est vrai qu'ils sont c'est une équipe qui est assez solide et difficile à manœuvrer. Alors t'as parlé d'Abdelhamid, on pourrait associer aussi son partenaire en charnière Disasi, mais je pense surtout le joueur le plus important de cette équipe là et ça peut-être c'est pas forcément positif quand je dis ça, je pense c'est Jacques Alexis Romao qui stabilise beaucoup de choses au milieu de terrain, qui fait une grosse saison. On l'avait peut-être un petit peu oublié, mais c'est un joueur qui, on le connaît, hein, solide, qui est intelligent dans son placement, qui en plus avait beaucoup progressé avec Marcelo Bielsa techniquement. Mais là où j'ai un petit peu de mal, moi, c'est dans le secteur offensif. Alors Boulaïdia, c'est un très bon joueur, mais à l'image de ce que Ludo disait sur Koulibaly, il doit faire des progrès en termes de réalisme. Ça peut être un vrai bon joueur parce que c'est une petite bombe dans ses appels, dans sa vitesse.
C'est un bulldozer,
mais il faut absolument qu'il progresse en termes de réalisme. Un joueur comme Rémi Houdin, qui est beaucoup moins décisif que la semaine, que l'année dernière, même si cette année, même si ce soir là, il marque. Mais je pense voilà que le problème de cette équipe.
Cafaro pareil.
C'est dans la construction.
Cafaro pareil. Ouais. T'as le petit Zenelli qui manque beaucoup aussi, qui a été une des révélations de la saison dernière, qui va revenir de blessure dans pas très longtemps.
Mais c'est ça manque d'un vrai tueur devant pour que cette équipe soit totalement, voilà, totalement une valeur sûre du, allez, on va dire du top 6-7 de Ligue 1. Parce que c'est une équipe, quand t'es solide comme ça, quand t'as un milieu de terrain avec Chavalerin et Romao qui est quand même de bonne qualité, il faudrait juste que t'aies un tueur devant, et je pense que ça décompterait beaucoup.
Ah oui, voilà, c'est un tueur devant. Il suffirait surtout que les deux mecs sur les côtés élèvent à nouveau leur niveau de jeu. Depuis son départ avorté, c'est vrai que c'est pas le même, même s'il revient tout doucement. Cafaro, c'est vrai que la saison dernière, il nous avait bluffé, on l'entend pas beaucoup cette année. Ouais, il y a des joueurs qui peuvent encore monter leur niveau, ce qui fait que cette équipe, elle est quand même assez redoutable.
Qu'est-ce qui s'est passé avec parce que quand même le multiplex avec Boulaïdia qui sortent comme ça là,
blessé.
43e. Et blessé, c'est grave.
Sorti sur blessure,
blessé, ouais. C'est grave.
Pas sûr, on verra ça plus tard. Non, j'ai pas l'info sur la gravité de sa blessure.
Et une dernière chose, moi, la seule chose, le petit reproche que je pourrais faire à David Guillon, qui est un des meilleurs entraîneurs français, faut quand même, à mon sens, mm-hmm. je le précise quand même, c'est que j'aimerais bien quand même voir des matchs où Souk et Boulaïdia commencent ensemble. Je sens que c'est un duo qui pourrait être très complémentaire. Alors ça te forcerait peut-être à réorganiser un petit peu où tu mets Rémi Houdin, ce que tu fais avec Cafaro, ce que tu fais avec Dingomé. Mais je pense que c'est un duo qui aurait de l'avenir.
Moi je voulais parler de Larsonneur en fait. Quand je parlais de Reims, je parlais de Gauthier Larsonneur. On devait en parler plusieurs fois dans l'after, notamment le samedi soir, parce que c'est un homme qu'on voit souvent le samedi soir. Non mais c'est vrai Ludo, on n'a jamais pris le temps d'en parler de ce gardien. 22 ans, 1m80, qui est clairement la révélation. Tout à l'heure, pendant le multiplex, Jo, t'étais pas avec nous. Il y a beaucoup de commentaires de supporters, notamment marseillais, qui disaient, mais on en veut à Marseille. Malanda est en fin de parcours. Pourquoi pas un Gauthier Larsonneur à l'OM?
Enfin, il est en fin de parcours. Il était en fin de parcours. Tout le monde pensait qu'il
non,
était en
mais
fin
oui,
de parcours.
Il est énorme, là.
Cette année, il est quand même,
il est marseillais.
Là,
il est fan de Marseille.
C'est ça.
Il est fan de l'OM.
C'est-à-dire que si tu veux l'attirer, t'as plus de chance. Encore faudrait-il qu'il y ait des gens assez intelligents pour choper la bonne occasion.
Tu l'achètes, tu le laisses un an après à Reims, et après Malanda aura 37 ans.
Pas à Reims, à Brest.
À Brest, c'est ce que je raconte. À Brest, et derrière tu enchaînes.
Bah, ce qui est quand même voilà, on avait.
En tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, tu vois, on n'avait pas comme ça flashé sur un gardien de la nouvelle génération.
Exactement.
Franchement, lui, il a énormément de qualité. Il a détente alors qu'il n'est pas extrêmement grand. Il est très bon sur sa ligne. Il est rassurant, même au pied. Je trouve que ça va. Enfin, je sais pas.
Marc Purland nous en avait parlé quand on l'avait eu l'année dernière. C'est qu'il disait qu'en fait, il avait beaucoup fait travailler. Relance, etc. C'est un joueur qui est pas maladroit. Après, est-ce que c'est toujours pareil quand on parle de Marseille, tu vois. Là, on parle d'un club qui est Brest où il doit faire 5-6 arrêts par match.
Exposé,
il est extrêmement sollicité. Donc c'est voilà, il brille. Mais quand tu arrives dans un autre club, dans un club un peu plus où l'équipe va avoir un petit peu plus le ballon et où va falloir sortir l'arrêt décisif dans le match.
Oui, mais moi je vois plein de gardiens de clubs moyens de Ligue 1 qui sont très sollicités.
Après, regarde, Steve Mandanda, il passe du Havre, voilà, il arrive à Marseille, il fait.
Le gars s'enflamme comme si à l'OM qui concédait jamais d'occasion, tu sais.
Oui.
Écoute,
t'as raison, c'est vrai que vous concédez qu'une occasion par
l'OM, faites gros sur une frappe.
C'est pas faux. Après, moi, je me méfie toujours d'un truc, c'est que des joueurs fans de l'OM qui arrivent à Marseille parfois, surtout quand t'es dans un poste,
l'émotivité,
ça peut être un petit peu difficile à gérer.
Je préfère ça que le contraire.
Ah bah oui, bien sûr. Mais il y a des exemples aussi de joueurs qui ont très bien réussi. Je pense à Rod Fanny, André-Pierre Gignac, malgré des débuts difficiles. Il y a des joueurs chez qui ça marche. Mais là, c'est un poste quand même qui est très particulier. C'est comme le poste de numéro 9 et le poste de gardien de but. C'est un petit peu la même chose pour moi. Regarde un petit peu, par exemple, les pérégrinations d'André-Pierre Gignac avant de devenir la légende vivante qu'il est de l'Olympique de Marseille. Je dis ça évidemment pour faire réagir les gens. Mais regarde, rappelons-nous les deux premières saisons qui ont été extrêmement difficiles. Là, c'est quand même un poste qui est difficile. Alors, on va le laisser continuer sur sa lancée parce que c'est pas juste cette saison qu'il est exceptionnel. L'année dernière, il me semble qu'il est meilleur gardien de Ligue 2, ou alors il est nommé, du moins.
Et non, c'est ça,
il est meilleur gardien de Ligue 2. Donc, sa
progression est cohérente.
Ça faisait suite à une saison de Ligue 2, une autre saison de Ligue 2 auparavant qui avait été aussi de tout aussi bonne facture. Là, on va voir, première saison en Ligue 1, faut le laisser grandir, mais c'est un gardien qui, certes, est très, très, très prometteur. Et je pense même que. Il est devant Bernard Denis là, pour les espoirs.
Ah oui, je pense aussi.
En termes de niveau.
En tout cas, le talent.
Bernard Denis est aussi exposé que lui, il est sollicité et actuellement Larsonneur est moins bon dessus.
En tout cas, le talent est là, c'est indéniable.
Indéniable. Voilà pour lui, et donc je rappelle, le père était marin pêcheur, il racontait dans une magnifique interview qu'il se souvient de son père.
C'est ça, ça a l'air
du matin en mer, il l'attendait.
Humainement, ça a l'air d'être un chouette type en plus.
Ouais, une vraie histoire.
Ouais, ouais, ouais.
Voilà pour Gauthier Lassonneur, je parle de Brest, puisqu'on parle de Nice désormais. Hein. Brest qui a fait 0-0 contre le gym. Julien, supporter niçois, est avec nous. Bienvenue dans l'after, Julien.
Bonsoir.
Salut, Julien. Julien, la série est endiguée, l'hécatombe est terminée. Nice resté sur 6 défaites consécutives à l'extérieur. Un point ce soir.
Quel point.
Non, c'était pas fameux, évidemment, mais bon.
Bah, c'est pas fameux. Si Lassonneur a été mis en évidence et que tout le monde dit qu'il a fait un match extraordinaire.
Oui, enfin, il tape la barre à la fin aussi.
C'est quand même que Nice a eu quelques occasions.
Ouais, mais il tape la barre à la fin, Brest aussi.
Quand même.
Oui, enfin.
Il y a un peu de chance. Hein.
Ouais, bah, si
Charbonnier manque un penalty aussi, quand même.
C'est vrai aussi.
Et c'est qui est-ce qui tape la barre à la fin, là? Il y a une tête. C'est un miracle.
C'est Lannes, je crois, non?
C'est Lannes,
c'est Paul Lannes, je crois. Vas-y, Julien, ce que tu penses, ce match des Niçois qui reviennent heureux de ce déplacement à Brest avec un point.
Ils sont heureux vraiment parce que, enfin, moi, je pense que je parle au nom de tous les supporters. Là, j'en ai ras-le-bol. Franchement, faut dire ce qui est, quoi. On paye des abonnements pour suivre une équipe qui est soi-disant ambitieuse pour jouer l'Europe. Alors oui, peut-être pas cette année, mais pour les prochaines années. Quand on voit l'affluence du jeu, on n'est pas capable. Au milieu, c'est catastrophique. Il y a pas un ballon qui sort propre. Et quand on voit que notre capitaine, qui est supposé être un élément indiscutable, il est cata sur tout le match.
C'est Dante, il est un peu en perdition.
C'est lui qui te met dedans depuis quelques mois.
Hein. Oh là là. Ouais. Ah non, mais c'est affligeant, c'est vraiment, Julien, vraiment très affligeant.
Julien, le problème, c'est, j'ai l'impression de me répéter. Alors la semaine dernière, il y a une belle victoire, il y a pas de problème. Mais par exemple encore
contre
ce
Metz.
Soir, ouais, contre Metz. Oui, bon, Marseille.
C'est vrai.
Allez, bon, laisse-moi terminer.
Vas-y.
Quand tu regardes la compose, le match de Nice ce soir, franchement, alors je l'ai regardé dans le multiplex avec un petit peu plus d'intérêt parce que c'est un de mes chevaliers de bataille cette saison. Mais est-ce que on a compris la composition d'équipe de Patrick Vieira au milieu de terrain notamment? Donc c'est un espèce de 4-4-2 avec Les Melou Cyprien.
Tamézé toujours pas là.
Un manque de contrôle total dans l'impact et dans la récupération. J'ai pas compris ni le positionnement d'Alexis Claude Maurice et de Ganago. Et encore une fois, donc je pense que Patrick Vieira est probablement un des entraîneurs les plus surcotés de Ligue 1. Mais encore une fois, ce soir, moi je trouve que tactiquement Nice a fait n'importe quoi.
Ah oui, non, mais totalement. Et c'est pas la première fois.
Bah non. Je te dis, pour moi c'est le coach le plus surcoté de Ligue 1.
À la fin de match, il y a de la place. On fait quoi? On fait sortir Ounas, qui a peut-être été peut-être l'un des moins catastrophiques avec Les Melou. À la place, on fait rentrer qui? Thuram, pour essayer de faire quoi en fait à la fin? Pour contrôler le milieu. Mais il est peut-être pas trop tard pour contrôler le milieu à la fin. Ça joue à 2000 à l'heure en fin de match.
Il a essayé quand je peux sortir Ganago à la 60e. Il y a Ganago qui sort, il y a Tamézé qui finalement finit par rentrer. Mais voilà, le problème, c'est que c'est toujours un peu du bricolage. Alors que je suis désolé, t'as quand même une équipe qui sur le papier, t'as le groupe pour faire quelque chose de beaucoup mieux à l'OGC Nice.
Pareil.
Mais moi, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Enfin, dernièrement, on a vu Boudaoui, il a fait 2-3 matchs.
Oui.
Est-ce qu'on est les seuls à voir qu'il est pas mauvais, il percute bien?
Bah, c'est un bon joueur.
Pourquoi il est par ce soir il est écarté de la feuille de match?
C'est peut-être une question de jeunesse, je sais pas, mais je t'avoue que j'ai du mal à le comprendre parce que c'est déjà qu'ils aient réussi à le recruter, c'était déjà un gros coup, mais c'est un joueur qui, même s'il est jeune, il faut qu'il joue parce que moi les peu de fois où je l'ai vu jouer à Nice, j'ai trouvé qu'il faisait des différences.
Il y a des...
et puis on l'a vu clairement, il manque vraiment un vrai numéro 10 derrière Dolberg parce que sur les peu de relances qu'on a eues, il y a Misiane qui part en fin de match. Il va lancer une balle en profondeur dans un milieu où il n'y a personne.
Bah, ça devrait être Ounas qui doit prendre ce rôle-là.
Mais là, elle a joué devant Ounas.
Lui devrait être un cran derrière.
Ouais,
et Dolberg,
les gars, Dolberg, je pense pas qu'Ounas ait envie d'être numéro 10 vraiment. Moi, je pense que c'est pas un joueur.
Dans tous les cas, il faut que tu associes quelqu'un à Dolberg.
Ah, bah oui.
Dans tous les cas.
Mais qui?
Bah, peut-être.
Ganago, peut-être.
Moi, je suis désolé, mais pour moi, William Cyprien devrait jouer un cran plus haut.
Merci Julien d'avoir un peu 32-16. Excellente soirée à toi dans l'after. On revient dans un
instant avec
Jonathan et Ludo. On va parler de Metz, Marseille, tenu en échec à Metz, un but partout. Et de Lyon, bien sûr, la lettre ouverte des Bad Guns adressée à Memphis Depay. À tout de suite.
RMC. L'after foot. RMC.
C'est la façon dont on a joué ce match-là. J'ai pas aimé. Manque d'impuissance.
Ça m'arrive de le regarder. Ça m'arrive d'aller au Parc Saint-Germain.
Tous les matchs, pour moi, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il y a chaque vérité à son match.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot. Nicolas Jamal.
Avec Jonathan Macardy, avec Ludovic Aubraniac. Bien sûr, on est ensemble jusqu'à minuit dans l'after du samedi soir. On va parler du match nul dans un instant de l'Olympique de Marseille à Metz. Petit coup d'arrêt après une folle série de 7 victoires, mais tout va bien pour les Marseillais, toujours deuxième. Des Lyonnais également, même si, je sais, on en a fait hier du Lyon, dans l'after. Mais aujourd'hui, ça y est, on a entendu les Bad Guns par la voix d'un communiqué, une lettre ouverte, plus précisément adressée au capitaine de l'OL, Memphis Depay. On en lira de larges extraits dans un instant. Appelez-nous, supporters lyonnais, au 32-16, également pour réagir, supporters marseillais aussi, bien entendu. Mais d'abord, messieurs, d'abord Toulouse, puisqu'on est en direct avec notre correspondant historique à Toulouse, qui lui aussi vit des samedis soirs difficiles, Wilfried Templier. Salut Wilfried, tu sors de la conférence de presse, notamment d'Antoine Kombouaré.
Exactement, Antoine Kombouaré qui est venu. On se demandait s'il allait venir, parce que à la fin du match, on a été près du vestiaire toulousain. Je vous rappelle les circonstances, la défaite, huitième défaite de suite du Toulouse Football Club, et surtout échauffouré des supporters qui quittent le virage, les Indians, qui quittent le virage à la 67e minute environ, et quelques minutes après, une dizaine, allez 15-20 supporters qui vont au contact de la tribune présidentielle, qui montent dans cette tribune pour aller réclamer des comptes à Olivier Sadran, le président, à Jean-François Soukas, le président délégué. Donc il y a eu des bagarres, il y a eu des échauffourées avec la sécurité. Pour l'instant, le bilan, on nous a dit, n'est pas encore définitif. Il y a une femme blessée, parce qu'il y avait des femmes, des familles, des enfants aussi. Bah, dans ces échauffourées, une femme blessée au genou. Beaucoup de, certainement, de supporters amochés, des gens de la sécurité amochés aussi. Pas d'interpellation pour le moment. Les supporters ensuite ont quitté le parvis du stadium, et beaucoup de monde à la fin du match sur le parvis du stadium. Il y a eu beaucoup d'allers-retours du président Sadran dans le vestiaire. On lui a demandé plusieurs fois de venir s'exprimer, parce que évidemment, on a des choses à lui demander. À chaque fois, il a éconduit la presse, que ce soit lui, que ce soit Jean-François Soukas. Et il a convoqué un journaliste de La Dépêche du Midi. Il a donné une interview à La Dépêche du Midi. On retrouvera cette interview demain. Bon, il annonce rien. Je me suis renseigné. Il va pas vendre le club. Antoine Kombouaré sera toujours, pour l'instant, l'entraîneur du Toulouse Football Club. Il a surtout parlé de cette intervention des supporters. Ça a été chaud quand même, parce qu'ils sont vraiment venus au contact et la sécurité a été débordée sur le coup. Ils ne s'y attendaient pas, et surtout, comme je vous le répète, voilà, il y avait des gens lambda, des familles, des enfants, qui auraient pu être pris un peu plus dans ces échauffourées, certainement très marqué à la sortie de ce match. Donc voilà, la coupe est pleine pour les supporters. Certains ont voulu rentrer sur le terrain aussi dans la foulée de cette intervention à la tribune présidentielle. Donc samedi soir très 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 tendu ici au Stadium de Toulouse. Ça va de mal en pis. Kombouaré est venu en conférence de presse. Pour lui, voilà, il doit trouver des solutions sur le terrain. Il dit qu'il comprend les supporters, mais que ça doit pas s'exprimer comme ça. Il a pas voulu trop en parler.
La grinta, quoi. On va s'en sortir comme ça.
Et il est toujours, on se demandait s'il allait pas être démis de ses fonctions et tout. C'est pas le cas, il échange avec le président, il parle du mercato, il nous a dit il y a des échanges, ça nous regarde pas ce qu'ils se sont dit, mais on est quand même très déçus de la part des dirigeants toulousains. C'était quand même le soir pour venir s'exprimer à nos micros. C'est pas trop loin. Mais bon, c'est assez triste quand même, parce que ça fait plusieurs saisons que c'est difficile pour Toulouse Football Club. Ce soir 20e, plus que jamais 20e, Nîmes est pas loin, mais plus que jamais 20e. Et en plus des échauffourées, des gens pris là-dedans. C'est un peu triste, triste soirée au stadium.
Triste soirée, et triste décennie pour le TFC également, qui depuis la saison 2008-2009 est 16e, 13e, 18e, 17e de Ligue 1 en fin de saison. Pour Toulouse. Merci Wilfried, excellente soirée à toi.
Bonsoir.
À très vite, bien sûr, sur RMC. Dis-moi.
Juste avant de commencer sur l'OM. Je sais que vous allez dire, mais je fais un bisou à Taylor, qui est consultant sur RMC Taylor 4. Taylor Lapillus, qui vient de s'imposer là dans son combat à Arès au Sénégal, la première carte de MMA organisée en Afrique. C'est quand même la famille Taylor, c'est quand même la famille RMC. Donc RMC, c'était son dernier combat avant de retourner à l'UFC. Donc je lui fais un des gros bisous et bravo.
Bravo à Taylor, notre ami Taylor du département Lapillus. Sport de combat, Taylor Lapillus. Marseille donc, tenu en échec. Pas forcément la bonne expression d'ailleurs. Marseille a égalisé, a arraché un point à Metz. Je rappelle le déroulé de ce match. Open Gate ouvre le score à la 40e minute. Penalty également dans la foulée pour Metz. Arrêté par Johan Pelé.
L'Albatros
qui remplace. Ah ben là, on a vu l'envergure de l'Albatros qui a remplacé Stéphane Onanda, sorti sur blessure. Pour l'instant, on n'a pas eu tout d'infos sur la gravité de la blessure. On va voir combien de temps ça peut durer pour lui.
Les amis du fossé.
Et puis, il a fallu, encore une fois, Super Serbe, Nemanja Radonjic, à la 70e minute. Je suis hyper fier de ce que je viens de faire.
Ouais, mais c'est pas vraiment le
4e but en 4 matchs.
Moi, je mettrais l'égalisation, pas sûr, on va en parler, mais c'est pas Radonjic que j'ai envie de mettre en.
Ah non, je te dis juste que lui, et encore une fois, il a marqué, décisif. Ouais. Encore une fois, il est entré et il marque. Marseille s'en sort bien.
Tu vas mettre qui en avant, celui que t'as crépi
Villas-Boas.
D'accord. Bah moi je trouve qu'il est plus à Alors il a eu un bon coaching à l'heure de jeu.
C'est ça, ouais.
Voilà, mais son entame de match, ouais. Sa composition de départ, elle est discutable.
Alors moi, si je mets Villas-Boas, c'est parce qu'il rectifie le tir quand il sort Strootman et fait rentrer Germain et il passe en 4-4-2. L'égalisation arrive quasiment directement après ce changement tactique de Villas-Boas. Après, là où je te rejoins, c'est que j'ai pas compris sa composition d'équipe. Alors je peux comprendre qu'il veuille relancer Strootman pour le maintenir un petit peu concerné, mais les succès récents de l'OM, c'est avec Bouba Camara devant la défense. Il y avait des automatismes qui commençaient à se créer avec Tchaleta Tsar derrière, que je trouvais, il monte en puissance, il a besoin de jouer, c'est un jeune.
Et tu le sais que quand t'es le binôme de la défense centrale, c'est important d'enchaîner les matchs.
Exactement. Et après, il y a deux choses que je voudrais mettre en avant dans ce match-là, c'est que il y a des joueurs qui c'était un petit peu remis la tête à l'endroit récemment, mais qui je pense je sais pas si c'est physique ou si c'est retour dans les travers, mais je pense à Amavi et Bounassar et Jordan Amavi qui ont pas fait un très bon match, et surtout les deux éléments moteurs de l'OM de cette série fabuleuse, de cette victoire, Dimitri Payet, Valentin Rongier, je les ai trouvés un ton en dessous cet après-midi. Alors juste pour conclure, moi ce que j'ai trouvé sur ce match-là, c'est qu'en première mi-temps, Marseille en fait l'a peut-être pris un petit peu trop facile, tu vois, un petit peu trop détendu, un petit peu avec un peu trop de confiance.
Parce qu'il y a des Marseillais, pour beaucoup, même ici dans l'after, c'était acté. Ouais. Marseille finirait avec 6 points à Metz et à Nîmes.
Et je pense qu'ils l'ont pris un petit peu trop détendu. Ouais, et c'est une équipe qui a besoin d'être à 100%, de se faire les efforts, parce qu'elle a pas non plus beaucoup de marge, tu vois, par rapport aux autres équipes de Ligue 1. Elle a besoin d'être totalement concernée. Et là, ils l'ont payé assez cash en première mi-temps. Et ça se traduit par quoi? Par un but que tu encaisses, qui à mon sens est évitable, et par une blessure de Steve Mandanda qui est consécutive à un espèce de cafouillage si les joueurs sont concentrés, il n'y a pas ce cafouillage.
Frédéric, supporter de l'OM au 32-16. Bonsoir et bienvenue dans l'after, Frédéric.
Salut à toute l'équipe.
Salut Frédéric.
Bon, comment tu vois, toi, comment tu analyses ce point du match nul? C'est plutôt bien payé ou tu restes déçu de la prestation et du résultat, surtout des Marseillais à Metz?
Non. Alors moi, déjà, je trouve qu'il y a énormément de choses à dire sur ce match.
Oui.
Match qui s'est joué en plusieurs étapes. Alors il y a la première mi-temps où on est catastrophique, on a joué un rythme à 2 à l'heure, il n'y avait pas de rythme justement, ce qui a permis à Metz d'avoir très peu d'occasions quand même, parce que je vous entends et je vous trouve quand même sévère avec Marseille en disant que c'est un point arraché, etc. Quand je vois quand même les statistiques, 70% de possession pour Marseille.
Frédéric, tu dois perdre 2-0. Oui.
Tu dois être mené 2-0 en tout cas.
Oui, ouais. Alors on va y revenir puisque tu parles du 2-0. On va éluder le sujet, comme ça après on n'en parlera plus. Comment on peut siffler un pénalty quand on a les images de la VAR?
C'est incroyable.
Alors moi je vais donner la réponse, c'est que la personne de la VAR, si elle est incompétente, elle donne les angles qu'elle a donné à l'arbitre, la caméra la plus loin, à 20 mètres de l'action.
T'as raison.
Et voilà, donc c'est la solution de la VAR, quand on a des gens qui sont incompétents à la VAR, eh bien ça donne le résultat qu'il y a, un pénalty qui est totalement inexistant. Quand on voit le joueur de Metz qui saute à pieds joints, pour aller s'empaler sur sa caille.
Mais tu vois, c'est intéressant parce qu'on a fait... Attends, je te coupe, Frédéric. Effectivement, il y a un plan qui dit la vérité de l'action. C'est le plan de derrière le but, tu vois. Un gros plan serré. On a fait le débat avec Roland Courbis, notamment, quand on regardait le match ensemble.
Ça peut même mettre jaune pour...
Roland me dit, mais si, il y a pénalty, évidemment.
Non, jamais.
Je comprends pas pourquoi.
Jamais.
Clairement, sa caille coupe son geste, pose le pied par terre. Il est à 50 cm de... C'est Nguet, je crois, ou Diallo, je sais plus.
C'est Nguet.
Et Nguet décide de se déporter latéralement sur le genou de Sakai et de trouver le pénalty.
Il a fait comme un saut de haie. Il a été directement, mais il a manqué la haie.
Ouais, c'est vrai que là, je te rejoins totalement, Frédéric. Après, juste petite parenthèse, parce qu'on parle d'Hiroki Sakai. Hiroki Sakai, il est dans une sale période en ce moment.
C'est compliqué, ouais.
Très franchement, c'est un joueur que j'ai beaucoup de mal à critiquer. Pour sa mentalité, pour son comportement, par la manière dont il s'est intégré à l'OM, parce que c'est un mec qui a l'air d'être un amour.
Est-ce que tu l'aurais pas un peu surcoté, ce jeune homme?
Non, pas du tout, parce qu'à un moment, il était vraiment très fort. Mais là, ça fait 2-3 mois où il est très mauvais. Rappelons-nous juste l'année dernière, quand à Marseille, ça va très très mal. Quand il participe à la Coupe d'Asie, qui revient avec le Japon, dès son retour, il restabilise la défense de Marseille et Marseille arrête de prendre une palanquée de buts. Donc c'est un joueur qui a été précieux. Là, je pense qu'il est dans une sale période. Alors après aussi, voilà, il a été un petit peu trimballé à gauche, à droite, en coup latéral gauche, en coup latéral droit. Je pense que ça ne convient pas. Je pense à un joueur qui est peut-être, il a quel âge? Il a la trentaine, c'est ça?
29 ans, je crois.
On va regarder ça, ouais. Qui a enchaîné beaucoup de compétitions récemment, que ce soit à l'OM ou avec le Japon. Je pense que là, il faudrait peut-être le faire souffler parce qu'il est en train de pénaliser l'Olympique de Marseille. Après, sur ce match... Ouais, excuse-moi.
Je suis d'accord avec toi, moi Jonathan, et je pense qu'il y a de la lassitude chez Sakai.
Ouais.
Le mec, il est sûr de tout le temps jouer à Marseille. Ouais. Alors, un coup, il se joue à droite, un coup, il joue à gauche, etc., etc. Comme tu dis, il a enchaîné les compétitions, il a enchaîné les matchs, Il joue tout le temps, C'est un mec qui a été quand même à un niveau correct la plupart du temps. Et là, comme tu dis, ça fait deux mois où c'est qu'il enchaîne des performances plus que moyennes. Mais moi, je pense que c'est une certaine lassitude. Alors, il faudrait le faire souffler. Je pense un petit peu.
Ouais, exactement. Et par contre, oui. Alors, Ludo, me charrier là-dessus, mais ouais, c'est vrai que Morgan Sanson là, depuis 4-5 matchs, il est enfin redevenu un bon joueur. Alors moi, je continue de dire que l'année dernière, la majorité des consultants l'ont trop défendu parce que l'année dernière, il a été catastrophique et je pense même que ça a été un des pires parce que ça a été un des premiers à lâcher psychologiquement quand ça a commencé à devenir compliqué avec Garcia.
Je suis pas d'accord avec
mais là, ça fait 4-5 matchs, je le trouve vraiment très très bon.
Ludo.
Il est enfin, tu vois, je le trouve même meilleur que lorsqu'il est arrivé à Marseille sur ses 6 premiers mois où il était quand même fabuleux. Là, je le trouve vraiment, Villas-Boas lui peut-être en train de lui faire passer un cap. Et quand il est comme ça, c'est un vrai régal de le voir jouer.
Ben, où c'est qu'il est très bon, moi je pense, et il a franchi un cap, c'est qu'il a une force d'accélération quand tu prends le ballon, ouais, qu'il n'avait pas peut-être l'an dernier.
Ouais, il a retrouvé des appuis, hein, c'est le pouvoir de projection aussi. C'est-à-dire qu'un milieu de terrain qui a le volume pour être là quand il faut à la récupération du ballon, impulser le pressing, mais en plus demander les ballons quand Benedetto vient un peu décrocher, c'est lui offrir une solution dans la profondeur, ce qui est aujourd'hui le plus dur à faire dans le football, c'est d'essayer de trouver des joueurs qui trouvent la profondeur. Quand c'est en plus un de tes milieux de terrain qui le fait et qui en plus est bon au pressing et à la récupération du ballon, tu peux que t'en féliciter. Il est dans une forme incroyable et ils sont d'autant plus à féliciter que l'OM, enfin, pardon, je vous le dis, j'ai le plus grand respect pour les joueurs, je dénigrerai jamais, bravo, mais je comprends pas, expliquez-moi pourquoi Strootman est toujours là, je ça, comprends pas. Trouvez-moi une bonne raison.
Il y a deux raisons.
Que ce joueur-là soit à ce moment-là sur le terrain.
Jonathan, dans un instant.
Tu peux pas partir en voulant aller gagner à Metz. Avec lui, c'est pas possible.
Dire, soit Villas-Boas qui a réussi à relancer de plus ou moins loin des Bounassar, des Jordan Amavi, des Payet, même des Sanson, on en parlait. Il se dit, si je l'ai fait avec 4 mecs, je peux le faire avec lui.
Oui, mais parce qu'il n'y a pas de
soit
concurrence.
Soit on lui dit, fais le jouer, on va le vendre.
Il n'y a pas de concurrence.
Il faut qu'il soit exposé.
Tu n'as pas de concurrence avec Amavi. À ma vie, faut le garder en vie parce que c'est le seul arrière gauche que t'as. Et là, t'as quand même quelqu'un qui peut jouer à sa place.
Je vais dire pourquoi. La réponse est très simple. C'est que malgré le fait que tu penses, Ludo, qu'il y a de la concurrence à ce poste-là, il n'y en a pas. De ce profil-là, capable de rester vraiment devant la défense.
Bah, Camara est très bien.
Tu n'as que lui. Donc en fait,
tu réinstalles.
Je pense que ce qu'il a voulu faire, et moi je suis pas d'accord avec lui, j'aurais laissé Camara et Tchaleta Tsar derrière, c'est qu'il s'est dit, ok, il faut pas le perdre. C'est un match qui, peut-être, je pense que Villas-Boas a eu le même comportement que les joueurs, à savoir un petit peu trop de confiance, un petit peu trop de dilettante sur ce match-là. Il s'est dit, c'est un match qu'on va gagner. C'est le moment idoine pour relancer Strootman parce qu'on va avoir besoin numériquement. Je t'ai pas dit qualitativement, mais numériquement, on en aura probablement besoin sur la deuxième partie de saison avec les coupes. Mais
ce qui est bien, c'est que tu as trouvé une certaine stabilité avec ton 4-3-3. Mmh. Mais maintenant, il faut quand même aussi pouvoir faire évoluer ce système de temps en temps. Tu vois bien que Benedetto, en ce moment, il a besoin de quelqu'un à côté de lui.
Bon en ce moment.
En 4-3-3, c'est dur pour lui, là, tout seul devant.
Il faut lui associer
quelqu'un.
Bon.
Regarde, Valère Germain-Rand, bim, tout de suite, ça match. Bounassar, ok, moi je veux bien Bounassar à chaque fois milieu droit. Et Radonjić, il est à 3 buts. Il était
4 buts en 4 matchs.
Et à un moment donné, il a le droit de jouer lui aussi.
Après, des joueurs, c'est des impact players qui jouent une demi-heure et qui sont forts.
Merci Frédéric d'avoir appelé le 32-16.
Allez, merci.
Excellente soirée à toi. Tiens, messieurs, beaucoup de commentaires sur Marseille, évidemment. Sujet qui fait toujours réagir. Hashtag RMC Live. Deux commentaires. Pagisigno nous dit les gars, les centres de Sarr et Sakai. Pagisigno.
C'est beau.
Ancien joueur marseillais, Michael Pagis, évidemment, mais René. Les gars, les centres de Sarr et Sakai sont honteux. Ils arrivent même pas à lever le ballon. Et là, j'aime bien la suite, elle est intéressante. C'est miraculeux les résultats qu'a André Villas-Boas avec les joueurs présents. Lucky Luke nous dit, la série de l'OM se fait uniquement sur la Grinta et on ne fait pas un podium avec celle-ci sur un championnat entier.
C'est pas vrai.
C'est excessif,
c'est
évidemment. Mais je vois ce qu'il veut dire, effectivement.
C'est pas vrai parce qu'en fait, la série a été portée par deux joueurs qui, techniquement, ont élevé le niveau de l'OM. C'est Dimitri Payet qui, sur cette série, est très fort, et c'est Valentin Rongier qui aussi sur cette série a apporté beaucoup de choses au milieu de terrain. C'est pas juste de la grinta, il y a eu des choix d'entraîneurs qui ont été forts, l'image du match contre Angers où ils décident de leur laisser le ballon et d'être un petit peu patient, tu vois, c'est bien aussi d'être patient et de les prendre comme ça. Maintenant, une chose est sûre, c'est qu'il y a un mercato d'hiver. Jacques-Henri Hérault qui a fait n'importe quoi depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille au point d'être probablement un des pires présidents de l'histoire de l'OM, là il a l'occasion de se racheter. Tu es deuxième, tu es en très bonne position pour attraper les Ligues des Champions. Sois malin, écoute ton entraîneur et achète-lui un ou deux bons joueurs. Parce que cette équipe-là,
Christophe,
tu leur donnes deux latéraux, c'est pas la même équipe.
Christophe au 32-16, supporter marseillais.
C'est ce qu'il y a de plus dur à trouver, les gens.
Bienvenue dans l'After, Christophe.
Salut, messieurs.
Dis-moi, Christophe, Pipa, comme l'appelle Jonathan, on l'appelle en Argentine. Dario, super Dario. Il est resté bloqué. 6 buts, là, il se passe quoi?
Là, c'est compliqué, là.
Mais les gars.
Mais il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide.
Je pense pas que c'est de l'aide qu'il a besoin.
Il a besoin d'aide. Il faut lui associer quelqu'un.
Non, je pense pas que ce soit un attaquant qui soit forcément meilleur avec quelqu'un à côté de lui. Là, ce soir, il a été. Je crois qu'il a fait son plus mauvais match sur nos couleurs. Je crois que c'est une certitude. Mais faut dire ce qu'il y a. Si on enlève les 5 premiers matchs de la saison, après, c'est quand même très moyen, faut être honnête. Si à la place de Benedetto, tu mets Germain dans le dos, fait incendier.
Non, je pense que beaucoup l'ont vendu comme un crack très rapidement quand il a enchaîné les buts. C'est pas un crack.
On l'a monté un peu trop.
Qui a dit que c'était un crack?
Après, il faut pas oublier qu'il est argentin, qu'il n'avait jamais joué en Europe. Mais je veux dire, c'est un bon joueur, on le voit. Mais je veux dire, il apporte beaucoup. Il apporte, mais je veux dire, c'est un buteur. Il faut qu'il marque. Alors, le 12 derniers matchs, ça fait 2 buts. Et je veux bien être gentil avec lui, mais il faut y aller, les gars.
Christophe, alors, je vais te répondre très simplement. La première, c'est que moi, qui l'ai beaucoup défendu quand il est arrivé, parce que j'avais beaucoup vu jouer en Argentine. Déjà, on n'a jamais dit que c'était un crack. Ok, ça, c'est la première.
Il a fini meilleur buteur de 2017.
Que c'était une super occasion sur le marché des avant-centres pour 15 millions d'euros de prendre un mec de cette qualité-là. Ça, je l'ai dit et je le maintiens. Maintenant, il y a deux choses qu'il y a à dire sur Pipa. La première, c'est que rappelons-nous qu'il est arrivé blessé, qu'il a été lancé très tôt dans le bain avec ce match contre Nantes. Et là, ce que je trouve, c'est que physiquement, il pioche un petit peu. Donc, quand il pioche un petit peu, c'est typiquement le genre de joueur à en faire encore plus, à déjouer un petit peu et à être totalement brouillon. Chose qu'il a été sur ce match contre Metz. Deuxième chose, c'est que malheureusement, je trouve parfois qu'il est un petit peu perdu parce qu'il n'a pas beaucoup d'aide non plus.
C'est ça.
Et ça l'aiderait forcément d'avoir. Alors je ne te dis pas forcément.
Alors je mets des qui les gars
attends,
à côté.
Laisse-moi finir. Je ne dis pas qu'il lui faudrait forcément un autre attaquant à ses côtés, mais peut-être un Dimitri Payet qui soit un petit peu plus recentré, tu vois, un petit peu plus proche de lui. Ouais. Ça pourrait l'aider parce qu'il a besoin de ballon. Et il y a une chose qu'il faut garder en tête, c'est que ses appels sont quand même de très bonne facture. Et par exemple, c'est vrai qu'il n'a pas marqué depuis un moment, mais quand regarde, juste prends le match de Toulouse, il marque pas,
Il fait jouer les autres. Combien de buts l'Olympique de Marseille a mis quand lui il est à la dernière passe ou à l'avant-dernière passe? Il fait un boulot qui est titanesque devant.
Exactement.
Il est tout seul, même au niveau du pressing, il impulse des choses. Moi je le trouve. Alors certes, bien sûr qu'un attaquant il a besoin de marquer. Je te dis, moi il est pas assez épaulé. Déjà les centres, comme tu l'as dit, t'as un centre sur 7 qui arrive. Donc déjà si t'avais un centreur avec un peu plus de qualité, Dimitri, quand il est sur son côté gauche, il prend le ballon, il rentre à l'intérieur. Donc pour l'attaquant, c'est pas évident aussi de trouver la solution pour trouver l'appel qu'il faut.
Beaucoup d'appels croisés.
Ben c'est ça, mais il est pas toujours servi non plus. Voilà, moi je trouve qu'il est pas mis dans les meilleures conditions. Et lui associer peut-être Werner Germain sur un ou deux matchs, parce que lui il a la capacité justement à faire briller les mecs avec qui il joue.
En remise, en déviation.
Mais je te dis pas sur. Alors le 4-3-3 il a bien fonctionné, ça il faut le garder. C'est-à-dire que t'as trouvé une certaine base, ça il faut le garder. Mais ça n'empêche pas que sur un match ou deux tu puisses essayer de faire évoluer pour remettre un ou deux de tes mecs qui sont censés être les piliers de cette équipe pour les remettre en confiance.
Alors et après il y a deux choses que je voudrais ajouter. C'est la première, c'est que je pense que pour le bien de Benedetto, le bien de l'OM, là il faudrait peut-être qu'il le sorte de l'équipe, qu'il fasse un petit peu de frais, tu vois, qu'il profite de la trêve. Je rappelle encore qu'il est arrivé blessé, qu'il a attaqué très vite. Je pense qu'il a besoin de refaire un petit peu de fraîcheur et de foncier, même une petite prépa foncière, et qu'il reprendra janvier plein badin. Mais surtout, je pense que le sens de l'histoire de cette équipe, c'est forcément que le retour de Florent Thauvin. Et là, j'ai hâte de voir parce que je pense que février mars. Mais les trois ensemble, Payet, Thauvin, Benedetto, ça peut être hyper complémentaire. On sait que Florent Thauvin aime bien rentrer dans la.
Ouais, mais c'est Thauvin, c'est entre. Les gars, excusez-moi, c'est un super joueur.
Ça rentre à l'intérieur.
Si
ça rentre
Payet,
Dimitri,
ça rentre à l'intérieur et ça rentre pour frapper Lucas de
latéraux. Si t'as pas des latéraux qui ont une bonne qualité,
il va dans le vide, le pauvre Dario.
Je te dis juste que j'allais dire. C'est pas bien de couper les gens. C'est pas bien de couper les gens. Non, j'allais dire que Thauvin, qui a une tendance à, mais c'est ironique, bien sûr, qui a une tendance à rentrer dans l'axe, et Payet, je pense, tu vois, que, enfin, Thauvin a une tendance à rentrer dans l'axe, et je pense que les deux, tu vois, Benedetto sera moins seul. Et Payet, limite, jouera comme un deuxième avant-centre.
Je persiste et je signe. On a parlé hier, alors je sais que ça paraît un peu fantaisiste, parce que c'est vrai que je pense pas que l'OM aura les moyens de se payer. Mais je regardais un peu les commentaires, ce que les gens pouvaient dire. Ils veulent pas de Giroud à Marseille. Vous voulez pas de Giroud?
Mais c'est cher, Giroud.
Non, mais
c'est 500 000 mensuels.
Imaginons que tu trouves un accord. Non, mais au-delà de ça, imaginons que tu trouves un accord, même pour lui, pour jouer, pour s'assurer sa place pour l'Euro, même si elle est déjà assurée. Mais bon, on va dire que pour lui redonner un peu de rythme.
Ouais,
mais t'imagines Benedetto Giroud devant avec Payet.
Le problème, c'est que Giroud il est dans sa dernière année de contrat, et que donc ils le prêteront pas.
Christophe, ça te plairait Giroud rapidement?
Bah
faudrait être un fada pour dire non.
Ah, je sais.
Il y en a pour Jonathan.
Je voudrais qui si allez, on te dit, tu peux faire venir deux joueurs cet hiver. Tu prends quoi? Quoi et qui?
Alors, on va dire peut-être là où on joue avec personne pour l'instant. C'est vrai qu'un ailier droit, c'est très light parce que même si Thauvin revient, il va pas être en forme avant un moment parce que Bounassar, on est gentil. Mais c'est, j'ai jamais vu quelqu'un qui a jamais réussi un somme depuis février 92. C'est hallucinant.
Il était né en 92.
J'ai rien contre ce joueur, mais là, il a été. Et c'est pas qu'il a été mauvais, c'est qu'on dirait qu'il a pas joué du match.
Il te faut un arrière gauche.
Moi, je prendrais un arrière gauche.
C'est une priorité.
Et un 6.
Et un 6.
Et pas un arrière gauche. Le but,
franchement, à ma vie, on va dire, il est dans la tête.
Le but,
il a un mental de fou, ce joueur.
Allez, les gars.
C'est peut-être pas le meilleur joueur qu'on a, mais en mental, je le respecte.
Christophe, le but,
merci Christophe.
Le but, il est pour lui quand même encore. Hein.
Oui, encore.
Si tu comptes le nombre de buts, si tu tombes le nombre de buts cette année où il est responsable,
c'est vrai.
Ça commence à faire beaucoup.
Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord, mais je veux pas l'accabler parce que.
Mais je veux pas l'accabler non plus. Je te dis juste qu'il faut, le remettre en concurrence avec quelqu'un.
Bon, le message, c'est Jacques Henriero. Sois gentil, achète des joueurs.
Ah, voilà
cet hiver.
Je voudrais. Notre président aussi.
Voilà.
Voilà, on finit là-dessus, Christophe.
C'est un bon
Christophe. Excellente soirée à toi. Tu viens quand tu veux dans l'after. Messieurs, rapidement quand même, parce que c'est une lettre que j'ai découverte en fin d'après-midi. Elle est longue, elle fait 4 pages. C'est la lettre ouverte des Bad Goats.
Lettre à Guy Moquet.
Pas Guy Moquet, non.
C'est un truc, ça, non.
Mais 100 ans après, il découvre ça. Le saviez-vous, Guy Moquet, vous connaissez ce gamin? Lettre ouverte à Memphis Depay.
Je connais par cœur, lettre à Guy Moquet.
Memphis. Lettre écrite par les Bad Goons et envoyée. Memphis, nous, leaders du Virage Nord, t'adressons cette longue lettre pour faire entendre notre voix. C'est à toi, capitaine, que nous souhaitons nous adresser. Alors, je saute de paragraphe, hein, c'est très long. Ta déclaration publique nous étant en partie destinée, nous estimons nécessaire d'y répondre. Concernant le problème Marcelo, nous pensons qu'il aurait dû être réglé depuis longtemps. Nous avons rencontré le président et Juni en octobre afin de leur faire part du comportement inadmissible d'un joueur ayant la fâcheuse habitude de montrer peu de respect à notre club, à son public et à notre COP. Si nous avions été entendus, ou ne serait-ce qu'écoutés, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Ils poursuivent, les Bad Goons. Quand un joueur se comporte comme un âne, il ne faut pas s'étonner qu'il soit caricaturé comme tel. Depuis l'altercation dont il est en grande partie responsable à l'aéroport de Lisbonne, où rien ne justifiait son attitude de vouloir en découdre avec l'un des nôtres, à aucun moment il n'a cessé de jeter de l'huile sur le feu. J'enchaîne. Nous aurions préféré que vous l'aidiez à ne pas sombrer dans son délire paranoïaque stimulé par les réseaux sociaux et les déclarations ubuesques, en hommage à Jonathan, de sa compagne. Qu'un soir de qualification 8e de Ligue des Champions vous optiez pour un retour au vestiaire rattrapé une extrémiste par votre coach nous a vraiment consternés. Comment peux-tu dans de telles circonstances prétendre ne vouloir faire qu'un avec le public? Et je finis. Mardi, nous avons, comme toi, continué à croire à la qualification jusqu'au bout. À l'inverse d'une grande majorité du stade ayant déjà abandonné à la mi-temps, le Virage n'a rien lâché. Conclusion. Si vous n'êtes pas payé pour vous faire insulter, sache que nous ne dépensons pas non plus nos économies et notre temps libre pour venir vous injurier. Dimanche, nous serons là, comme toujours, et nous serons encore présents quand la plupart d'entre vous auront vogué vers d'autres cieux. Nous prendrons part avec fierté à l'hommage qui sera rendu à une légende du club, Bernard Lacombe. Voilà. Moi, je trouve la réaction plutôt fine, déjà. Plutôt subtile, de la part des Bad Goons, qui dit qu'on n'est pas dans une affaire manichéenne, blanche ou noire, que les torts sont sûrement partagés.
C'est ça.
Et que Marcelo a ses torts. Les joueurs lyonnais ont peut-être leur tort, effectivement, de ne pas avoir tourné le dos aux supporters lyonnais en tribune. Et les Bad Goons, évidemment, ont réagi de manière excessive. Les gars, vous en pensez quoi? Si un supporter lyonnais vient nous appeler, c'est le moment.
Bah, ils ont fait amende honorable. Voilà, c'est tout. C'est bien de leur part d'avoir réagi de cette manière-là. Je trouve que c'est bien écrit, c'est posé. C'est après, ça. Moi, j'ai pas les tenants et les aboutissants. Je maîtrise pas ce que fait Marcelo et ce qu'a fait Marcelo. C'est pour ça que cette situation, elle nous paraît un peu complètement démesurée, parce que on se dit, ce mec Marcelo a pas l'air d'être un mec.
Enfin, c'est quoi l'histoire avec sa compagne?
Il a pas l'air d'être
envoyé un tweet ou
non, il a pas l'air comme ça d'être désagréable.
Attends,
le problème, c'est que moi, Marcelo, je le connais pas.
Ludo,
fini et j'y vais. Vas-y, finis, Ludo.
Ben non, mais je te dis, Marcelo, on sait pas ce.
Mais c'est pour ça.
Je sais pas, moi, ce qui.
Dis-nous ce qu'elle a fait.
Il a l'air d'être un garçon gentil. Après, si lui, il arrête pas de chauffer les mecs et qu'il est pas respectueux.
Le tweet de la femme de Marcelo, consécutif à la soirée en Ligue des Champions, c'est d'expliquer, je l'ai pas, hein, faudrait que je lise, enfin, tu vois, précisément, parce que c'est toujours un sujet sensible. En clair, elle a reproché notamment à Lopez, d'être allé lui, de se désolidariser de l'équipe par rapport au comportement des supporters vis-à-vis de Marcelo et d'être allé saluer les Bad Goons. Voilà ce qu'elle reproche.
Après le match, notamment.
Après le match. Non, après le match en Ligue des Champions, cette semaine.
Faut maintenant apaiser le climat. De toute façon, Marcelo va partir. De toute façon, il n'était pas ni sportivement et apparemment humainement apprécié. Donc voilà, et puis le problème sera réglé. tout simplement.
Après,
mais si lui, nous, on ne sait pas ce qui fait Marcelo.
Ouais, non, mais c'est délicat d'en parler.
C'est difficile pour nous
mais
de se positionner.
Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est de voir qu'un joueur que l'on qualifiait de dilettant, d'un petit peu je m'en foutiste, qui était peut-être plus, voilà, on s'imaginait beaucoup de choses de lui de par ses qualités, mais pas d'être un leader. C'est Memphis Depay et cette saison, il s'affirme vraiment comme un vrai taulier. Je pense que les Bad Gones, la lettre qui m'intéresse,
lui rend hommage.
C'est qu'ils lui rendent hommage. Ils lui disent que c'est voilà, qu'il salue sa grinta, son investissement, chose qu'on était loin d'imaginer si on revient un an en arrière. Donc voilà, c'est ça qui est cool quand même.
Et voilà pour lui, on met attaqué également à la direction.
Qu'est-ce que je t'avais dit que ça change un homme d'avoir un
brassard,
d'avoir le brassard.
Brassard.
Ouais. Dans un instant, les drôles de dames. Trois drôles de dames au programme ce soir. Fred Hermel, Julien Laurence et Paulo Breitner, bien sûr, le Bayern, le Barça, le Real également. À tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Jamain.
Avec Ludovic Obraniak, avec Jonathan McCarty, on est ensemble jusqu'à minuit. C'est l'heure des drôles de dames qui sont avec nous ce soir. Et on commence par Fred Hermel. Bonsoir, Fredo.
Hola, chicos.
Salut, Fred. Au toi, dans 5 jours, là. T'as un super classico.
Ah oui.
Magnifique. Ah, oui. Même si j'aurais préféré que le Barça gagne, tu vois, que le Real gagne demain et qu'on ait deux équipes à égalité.
Ouais, mais c'est pas facile d'aller gagner à Saint-Sébastien.
Ouais, quatrième de Liga. Deux buts partout, ce soir, Griezmann a marqué. Vas-y.
Griezmann a marqué, mais il a une tranquillité face au but, c'est un truc de fou, quoi.
Bah, le piqué, là.
Ah bah, la balle piquée, là, sur un contre lancé par Suarez. Un but qui ressemble un peu à celui qu'il avait marqué l'autre jour sur une passe décisive de Ter Stegen. C'est-à-dire que comment face au gardien il pique la balle, enfin on a l'impression qu'il y a zéro, qu'il est dans son jardin, quoi. Vraiment, enfin c'est, tu sais qu'il va pas le manquer parce qu'il a un sang-froid exceptionnel. Quoi.
Face au but, c'est le meilleur joueur français face au but avec Benzema, quoi. Mais
efficace, ah oui,
quoi.
C'est impressionnant, quoi. Ah oui, et puis cette délicatesse dans le toucher de balle, et puis surtout, enfin dans un match compliqué pour le Barça, parce que la Real Sociedad est l'une des équipes, peut-être, ou peut-être même l'équipe qui joue le mieux au football en Espagne. Mais il a fait un gros boulot défensif aussi, quoi. Donc, il fait tout pour se faire accepter. Et
si ça va mieux. Ça veut dire que ça va mieux, là. Ça prend forme.
C'est-à-dire que je pense que les autres se rendent compte que quand on passe le ballon à Griezmann, il y a but, quoi. Voilà, c'est. Ouais. Moi, je pense que le Barça sans Griezmann ne peut pas gagner la Ligue des Champions. Avec Griezmann, oui, avec Griezmann dans l'équipe et Griezmann à ce niveau-là, et surtout avec cet esprit de sacrifice qu'il a appris à l'Atlético et qui fait un bien fou au Barça, parce qu'on sait très bien que Messi et Suarez ne défendent pas. Ils sont pas là pour ça. Mais lui, il est capable de revenir pour défendre. Et puis, on va dire un mot sur le jeune Norvégien Martin Ødegaard.
Oui.
Mais quel joueur.
Real Sociedad, évidemment.
Il a prêté par le Real encore.
Il appartient toujours au Real.
Ouais. Il appartient toujours au Real. Il était prêté. Ouais. Alors, c'est-à-dire qu'il est arrivé, il avait 16 ans. Hein, il était au Castilla avec Zidane. Ouais. Mais à l'époque, il refusait de s'entraîner avec les gens du Castilla.
Son père voulait pas.
Son père avait fait inscrire dans le contrat qu'il devait s'entraîner du lundi au jeudi avec les pros. Les pros, c'est-à-dire que les Cristiano Ronaldo, les Ramos, etc.,
pourquoi
qui
pas
calculaient pas du tout. C'était un peu problématique de s'entraîner avec des gens, de refuser de s'entraîner avec le Castilla et de jouer avec le Castilla le week-end. Et moi, Zizou m'avait raconté que les autres voulaient pas lui donner le ballon en disant maintenant, tu veux pas t'entraîner avec nous, on va pas.
C'est ça, le problème, c'est que tu mets ton fils dans une position très inconfortable par rapport au mec de la Castilla et au mec de l'équipe première, quoi.
Exactement. Alors après, il a été prêté aux Pays-Bas. On sent qu'il a mûri en tant que joueur et en tant que personne. Et là, la Real Sociedad, a priori, l'intention du Real, c'est de le récupérer la saison prochaine, quoi. Parce que, franchement, là, il a une facilité avec la balle.
Il est élégant, il est soyeux aussi.
C'est magnifique. Sincèrement. Après, il y a la question de la compétitivité et d'être à un très haut niveau tous les trois jours.
Ouais.
Une chose, c'est, en ce moment, la Real Sociedad, qui n'est pas qualifiée pour la Ligue des Champions, jouer un match, être dans la dentelle, comme il est aujourd'hui. Une chose, c'est d'être performant tous les trois jours. Mais c'est un joueur qui, techniquement, est vraiment exceptionnel. C'est l'un des plus beaux joueurs de la Ligue 1, hein, sincèrement.
C'est vraiment intéressant dans la perspective de renouvellement de l'effectif du Real pour les années à venir. Il y a le petit Hakimi aussi qui est à Dortmund, qui est un excellent joueur. Donc,
qui était prêté pour 2 ans.
C'est ça. Ça voilà, fera la deuxième année.
Sa deuxième saison.
Ça fera la deuxième saison.
Donc Ødegaard, Hakimi, peut-être de retour sûrement de retour en juin.
Vous avez Rodrigo, et puis vous avez Valverde, et puis vous avez Militao. Il y a quand même une belle relève jeunesse, hein, du côté du Real Madrid. Mais bon, pour l'instant, ceux qui font, Valverde, maintenant il est titulaire. Rodrigo, il est de plus en plus titulaire. Mais bon, on verra l'année prochaine ce qui se passe. Mais le Real a une réserve. En fait, simplement, c'est une la résultante d'une politique. À partir du moment où les Anglais pouvaient se permettre de dépenser énormément sur des joueurs, le Real n'a pas voulu rentrer dans la surenchère en disant nous on veut bien mettre 300 millions sur un Mbappé par exemple, c'est la réflexion du Real, mais on veut pas mettre 100 millions sur un joueur moyen. On préfère miser sur des jeunes. Comme Odegaard, qui avait coûté, je crois, 25 ou 30 millions à l'époque, hein, très cher. Comme Rodrigo, etc. Comme Valverde il y a quelques années. Donc, ils font des paris sur des jeunes. Certains vont fonctionner. Certains vont pas fonctionner. Mais voilà, c'est une politique, quoi. C'est une politique de paris sur la jeunesse. Et pour l'instant, il faut bien reconnaître que ça marche. Enfin, pour revenir au match du Barça, c'était un match de très haut niveau des deux équipes. C'était vraiment beau à voir. Avec des, la Real Sociedad, je pense que si elle ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions, c'est parce que mentalement, on sent que c'est une équipe qui a besoin de mener. C'est-à-dire que quand le Barça a égalisé et a marqué le deuxième but en deuxième au début de deuxième période, là, ils étaient vraiment pas bien. C'est-à-dire ils n'ont pas su faire le dos rond et c'est une erreur de Ter Stegen. On va la signaler parce qu'elle est tellement rare qui a permis à cette équipe de la Real Sociedad d'avoir un point très mérité.
Dis-moi Fred, demain, Real Madrid-Valence, super affiche. Hein,
Valence-Real Madrid.
Valence-Real Madrid, ouais. Demain, deux équipes de Ligue des Champions qualifiées pour les huitièmes de finale. C'est à 21h. Le Real, est-ce qu'il a déjà la tête au Classico ?
Non. Non, parce que Valence, c'est jamais facile, quoi.
Sans Gamero, hein.
Sans Gamero qui s'est blessé l'autre jour lors de la qualif sur la pelouse de l'Ajax, c'est. Alors moi je pense sincèrement que la rencontre risque d'être un petit peu moins compliquée que d'habitude pour le Real, pour une raison très simple. Et je pense que Ludo, qui a vécu des grandes émotions dans le foot, ce qu'ils ont fait mardi soir sur la pelouse de l'Ajax,
ouais, avec plein de joueurs blessés, la décompression.
Ouais. C'est-à-dire que faut voir ce qu'ils ont fait. Enfin, ils ont tenu jusqu'à la dernière minute, 1-0. Ils prenaient un but, ils étaient éliminés. Enfin. Il y a eu vraiment un, et on les a vus après comment ils se sont écroulés, comment ils étaient heureux, etc. Je me demande s'il n'y a pas une petite décompression
ça peut être
psychologique et physique.
Ça peut être l'inverse aussi, Fred.
Ou peut-être l'inverse, c'est ça.
Tu peux être gonflé à l'adrénaline avec justement ces émotions-là qui, en plus, entretenues par le fait que tu vas jouer le Real une semaine après. Ça peut être aussi l'inverse.
Dites-moi, messieurs, qui a dit en conférence de presse seul le talent compte sur le terrain? Peu importe l'âge, le football n'a pas d'âge. En France, il y a un joueur qui a 42 ans et qui joue encore. Le football aime tous les âges. Zidane, qui a parlé de Vittorino Hilton.
Ah putain, j'ai bien que c'est un hommage. Balmont, mais merde.
T'as pas de Balmont, non. Balmont, Hilton, oh, pourquoi pas. Hein. Hommage quand il a été interrogé, Fred, c'est sur Rodrigo super. Et Vinicius.
Oui, non, c'était non, pas sur Vinicius, c'était sur Rodrigo.
Ah,
moi j'avais c'était sur Rodrigo et c'était là il y a 15 jours.
C'est génial.
Ah, c'est 15 jours.
C'était il y a 15 jours, c'était une question sur Rodrigo.
C'est génial qu'il parle de Vittorino Hilton.
Et je crois que c'était ma question. Je suis pas sûr parce que j'en
pense. Il sait que c'est Vittorino Hilton ou parce qu'il dit il y a un joueur de 42 ans, il connaît l'existence de Vittorino Hilton.
Je sais pas. Moi je vais poser. Mais non, bien sûr, c'était moi. C'était moi la question, puisqu'en plus on avait un sujet pour la télé, un reportage pour la télé avant la Ligue des Champions. Sur
mais je pense qu'il sait qui est Vittorino Hilton.
Oui, quand même.
Bien sûr,
il le fait, c'est génial. Voilà,
mais super. Il suit tout le
football. Nous, on est fiers, les gars, d'avoir un Vittorino Hilton. Vraiment. 42 ans. Et Flo Balmont aussi.
Est-ce qu'il aurait pas niveau pour jouer au Real Madrid, Vito, encore?
En tout cas, en Espagne, on a un Joaquin, 38 ans.
Oui, c'est vrai.
Qui a mis un triplé la semaine dernière.
Ouais, incroyable. Ouais.
Et qui est le plus vieux joueur à avoir mis un triplé de l'histoire de la Liga. Il a dépassé Alfredo Di Stéfano.
Et 38 ans. Ouais. C'est qui ça doit être un des plus vieux tout court, non?
Joaquin?
Ouais. En Espagne?
Ah, c'est le plus... Non, mais dans le monde aussi, non?
Quoi?
Non, mais à mettre un triplé à cet âge-là, je pense qu'il doit avoir Di Natale qui doit. Oh, sinon, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait ça à passer 37, 38 ans.
Ouais, je sais. Ouais.
Et en plus, il est drôle et il est sympa, donc ce qui ne gâche rien. Il prend son métier de footballeur et de capitaine au sérieux, mais lui ne se prend pas au sérieux. Vous savez, tous ces gens qui intellectualisent le football, je leur demande simplement d'aller voir Joaquim et comment il se marre après les conneries qu'il raconte après avoir marqué des buts. Enfin, c'est magnifique. En tout cas, demain soir, ce week-end, on a quand même deux belles affiches parce que cette Real Sociedad Barça, c'est traditionnellement un bon match. Et là, au après-midi, c'était vraiment bien. Et demain soir, Valence. Un petit mot peut-être sur l'Atlético.
Très vite, Fred, vas-y.
Très vite. Eh ben, l'Atlético qui ne marquait qu'un but par match depuis le début de la saison.
On a mis deux.
Cette semaine, deux fois deux. Donc,
Simeone commence à ouvrir les portes.
C'est surtout, en fait, il y avait des occasions, mais il y a un manque d'efficacité terrible. Et ce soir, en première période, ils ont encore eu du mal. Ouais. Et en deuxième période, face au Sassuna, ça s'est libéré avec Morata qui a mis une très belle tête. Mais je continue à penser que cette équipe de l'Atlético, l'Atlético et n'est pas une équipe qui va aller très très loin en Ligue des Champions et qui risque de souffrir aussi pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, parce qu'il y a de très belles équipes. Il y a Séville, il y a Real Sociedad, tout ça.
Quatrième de Liga pour l'instant, 29 points. Séville, 31 points. Troisième, Real, 34 points. Un match en moins, donc demain à Valence, 21h. Et Barça en tête, 35 points. Merci Fred.
Adios, Ticos.
Adios, à très bientôt dans l'after, bien sûr. Dans un instant, on revient pour accueillir Julien Laurence, pour accueillir Polo. Ah, Polo Breitner avec nous, bien sûr, pour parler du réveil des gros, en tout cas. La confirmation des gros, le Bayern et le Borussia sont là, cartonnent en Bundesliga. Tu sais ce que ça veut dire, Bundesliga, en fait, ou pas? Mais on posera la question à Polo. Bundesliga. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Nicolas Jamain.
Et oui, l'After est là. Jusqu'à minuit, bien sûr, à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News, de plus en plus à nous regarder d'ailleurs. Fred Hermel était avec nous, désormais place, messieurs Jonathan Macardy et Ludovic Obraniak, à Polo Breitner.
Ah. Bonsoir.
Salut Polo.
Salut
Polo.
Bonsoir tout le monde.
Salut Polo.
Ah, moi je suis content. Müller a marqué, je suis content.
Polo. Ah oui, Müller, ouais. Retour en grâce de Müller.
Il rentre à la 70e. Vas-y. Il marque à la 72e et il fait, non, ou il fait une passe à 75e.
Ouais, moi, j'adore Thomas Müller avec ses
Elle rampe d'auteur.
Ses chaussettes un peu basses comme ça à l'ancienne. Cette dégaine, tout sauf un footballeur.
Je t'ai dit, c'est un de mes trois joueurs de foot préférés.
Ah oui, carrément.
En activité.
Bon,
oui.
Polo, le Verder, il a pris son tarif habituel à Munich.
C'est quand même, mais tu sais, c'est le punching ball.
Tu regardes les dernières années sur les 5.
T'en as pris une, toi, la bonne grosse claque?
Non, j'y étais pas, j'étais blessé.
Ah, voilà.
Oh, l'excuse.
Vas-y, Polo. Non,
ah oui, alors déjà Bundesliga, ça veut dire Ligue fédérale.
Voilà, je voulais quand même vous dire que les gens savent pas.
L'Allemagne est une république fédérale et donc Bundes, évidemment, vous savez que les régions allemandes, donc les fameux Länder, sont très indépendants ou du moins autonomes sur différents secteurs d'activité, dont l'école par exemple. Et donc c'est pour ça qu'il y a toujours, lorsque le championnat ouvre en début de saison, il y a toujours les 18 drapeaux des 18 clubs qui jouent, parce que c'est aussi une façon de rappeler que toutes les régions sont représentées, et donc c'est un peu de la politique aussi, et ce qu'on n'a pas en France par exemple, qui est un État centralisé.
Et d'où le Bundestag également, l'Assemblée parlementaire.
Voilà. La Bundespost.
6-1 du Bayern face au Werder. Hein, le Bayern qui avait remporté 20 des dernières confrontations face au Werder. Hein, voilà ce que disait Ludo. Triplé de Coutinho.
Ouais.
De retour à son meilleur niveau, joue un peu vite ou pas?
Bah, c'est surtout sa plus belle prestation. Et quand je dis belle, c'est pas que sportif, c'est les buts qu'il a mis. Il y en a 2 sur 3 qui sont juste exceptionnels, que je vous conseille de regarder. C'est de loin sa plus belle prestation depuis le début de la saison. Il était décalé sur le côté gauche, puisqu'on avait laissé un petit peu Müller au repos. C'était assez, la composition d'équipe était assez intéressante, puisqu'il y avait encore Thiago. Donc, on sent que Hansi Flick, finalement, il l'a d'ailleurs déclaré avant la conférence de presse, et qu'il y a plus de 11 titulaires. Il dit, on met tout le monde en concurrence et on voit. Et je souhaite que les joueurs, se mettent pour réussir à faire des belles performances. Et c'est ce qu'ils ont fait, malgré l'ouverture du score du Werder, où d'ailleurs on a vu encore la lourdeur de Boateng, et puis le Bayern qui a égalisé, puis mis un deuxième but. Mais alors, c'était pendant les arrêts de jeu de la première mi-temps, et puis en seconde mi-temps, c'est parti, quoi, enfin. Et je voudrais dire, on a parlé de Coutinho, c'est fort logique, mais n'oublions pas que Lewandowski a remis un doublé, et il se retrouve à 220 buts en Bundesliga, c'est-à-dire qu'il rejoint Jupp Heynckes sur le podium de la Bundesliga, et donc il va dépasser Jupp Heynckes, donc il est aujourd'hui officiel. Enfin, il sera dans quelques journées, peut-être dès mercredi, le troisième plus grand buteur de l'histoire de la Bundesliga. Wow. Mais là, ça, c'est impressionnant.
Et t'as
Gerd Müller avec 365. Et puis là, pour faire du mal au football français, il faut rappeler que le deuxième, c'est Klaus Fischer, celui qui fait fameux retourné, le fameux retourné avec 268 buts lors de France-Allemagne 82.
Okay. Bon. Ludo?
Ah non, mais c'est incroyable.
Qu'est-ce que tu connais, hein, Robert, hein.
Il maîtrise ce championnat à merveille, notamment dans une équipe comme le Bayern de Munich, où lorsque tu peux être le numéro 9, et c'est vrai que parfois il y a des largesses chez certaines défenses de Bundesliga. Donc pour lui, qui a une intelligence bien au-dessus de la moyenne.
Il est taillé pour ce championnat. Tu imagines réussir, toi, en Liga? Parce qu'à l'époque, des rumeurs,
je crois que Robert, il est taillé pour aller partout. C'est-à-dire qu'il a cette capacité à pouvoir participer au jeu. Il a la capacité à pouvoir demander la profondeur. C'est-à-dire que c'est un mec qui va quand même assez vite, assez propre techniquement, roublard dans la surface de réparation. La science des appels. Donc,
il a quel âge déjà maintenant?
Il pourrait jouer.
Il a 30 ans.
Même en Angleterre, il pourrait répondre aux défis physiques, je pense.
31 ans?
31 ans, mais jeune encore.
Ouais,
le seul hic, Polo va te le dire, c'est que pour l'instant, il n'arrive pas à faire passer le cap au Bayern de Munich dans la compétition Rennes.
Enfin, ouais, c'est ce qu'on lui reproche. C'est qu'en fait, depuis 2013 et son fameux match contre le Real Madrid en demi-finale, c'est un peu compliqué à ce niveau-là, mais il a tout pour. Hein. C'est plus, je veux dire, une malchance qu'autre chose. Il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive pas. Hein. Il a marqué contre tout le monde. Okay, il y a des équipes qui préfèrent, comme tous les grands champions. Il est caractériel un petit peu. Il a un caractère très particulier. Là.
C'est vrai, ça
évidemment, sur Ludo, c'est comme Ludo.
C'est un singulier, c'est un mec un peu.
Je dirais pas que c'est une diva, mais c'est un solitaire.
C'est un solitaire. Ouais. Taiseux.
Ouais, il s'exprime pas énormément.
Ouais. Tu sais, Polo, le problème, c'est que rappelle-toi quand le Bayern gagne la Ligue des Champions avec Enkes, je crois, le Bayern avait trois avant-centres de bonne qualité. Il y avait Mandzukic, il y avait Gomez qui était sur le banc, il y en avait un autre. Là, j'ai l'impression que le problème, c'est que peut-être il est un petit peu tout seul, ce poste de numéro 9 au Bayern depuis quelques temps, et qu'il joue peut-être un petit peu trop de matchs et qu'il perd peut-être un peu d'influx au printemps.
Le problème, c'est que en fait, il y a deux ans, il se plaignait de pas avoir un backup qui puisse le soulager quelquefois. Et dès qu'on veut renouveler l'effectif et lui mettre un petit jeune dans les pattes, histoire de le concurrencer un petit peu, il râle. Donc c'est aussi un petit peu compliqué de sa part. Moi, je le dis tout de go. C'est lorsque Niko Kovac était encore le coach du Bayern. Rappelez-vous, il était avant l'entraîneur de Francfort. Il y avait un certain Jovic qui était là-bas. Niko Kovac, Jovic, vous voyez d'où ça vient, toutes les origines, etc. On savait très bien que Niko Kovac voulait amener Jovic pour préparer l'avenir du Bayern Munich et un petit peu soulager Lewandowski, et ça ne s'est pas fait. Donc au bout d'un moment, c'est un petit peu compliqué de réclamer quelqu'un. Puis ensuite, quand on veut te mettre un jeune dans les pattes, tu dis moi je suis bien tranquille. Donc c'est Thomas Müller qui fait l'andouille, c'est Perisic, mais c'est pas un vrai numéro 9. Donc voilà. Et puis il faut aussi trouver quelqu'un qui soit capable ou qui accepte d'être le remplaçant de Lewandowski, parce que c'est compliqué. Ouais, d'où la thématique à Haaland en ce moment, par exemple au Bayern Munich, parce que c'est un peu compliqué, quoi.
Ah oui, ça peut être ça peut gêner un petit peu Lewandowski, quoi.
Ça peut gêner Lewandowski et ça peut gêner aussi le développement du Norvégien, quoi.
Oui, bien sûr. Pas simple à gérer ce cas Lewandowski.
Enfin, tu préfères l'avoir avec toi quand même, hein.
Oui, quand t'es au Bayern, oui, mais bon,
220 buts, c'est quand même pas rien.
Tiens, rapidement, avant la cure Julien Laurence, parce que je voulais en parler, le Borussia cartonne à Mayence, 4-0, quatrième victoire consécutive, toute compétition confondue. Bon, là, Lucien, il est peinard, c'est bon, il a écarté la menace.
Justement, vous parliez des effets positifs de la Ligue des Champions. Je pense que cette victoire gagnée extrêmement douloureusement contre Prague, qui leur a permis d'être en huitième de finale, puisque l'Inter a raté son match contre le Barça. Et en fait, ils se sont lâchés vraiment à Mayence. Petite nouvelle à Mayence, c'est important, c'est que Mateta est rentré. Il était blessé depuis longtemps. Ouais. Donc il a joué les 10 dernières minutes. Donc on va enfin avoir un attaquant plus que correct à Mayence pour les prochains matchs. Donc ça, c'est intéressant. Et puis juste Leipzig qui a mis un carton aussi à Düsseldorf, qui avait le pressing parce qu'évidemment il jouait à 18. Ça fait 6 victoires consécutives en Bundesliga. Ils prennent en ce moment la première place de Bundesliga, parce que Mönchengladbach va avoir un match très compliqué demain à Wolfsburg. Rappelons qu'ils ont été éliminés d'Europa League. Et surtout Leipzig, sur ses 6 dernières victoires, met au minimum 3 buts à chaque fois. On change l'effectif à chaque fois, ça change rien. C'est une véritable machine en ce moment et c'est vraiment intéressant. Je pense qu'on va avoir une deuxième partie de saison assez intéressante.
Ça va être dingue.
Les gros bras sont là, quoi.
Ça y est, ils reviennent, les gros bras. En tout cas, ils sont remusclés. Merci Polo.
Merci.
C'est la transition faite. On va parler de Jadon Sancho, là, qu'on voit à l'image sur RMC Sport News. Phénoménal. Gamin, britannique, 19 ans, 8 buts, 9 passes cette saison au championnat. United serait très intéressé, Polo.
Nico, je vous raconterai dans quelques semaines des choses sur Sancho.
Particulier à gérer aussi, pas simple.
Ça a l'air d'être très particulier.
Il a pris une amende de 100 000 euros, je crois, il y a quelques semaines, là.
Oui, puis il va sûrement en prendre une autre. Le vrai problème, c'est que je peux pas vous dire en ce moment ce qui se passe dans les vestiaires du Borussia Dortmund, parce que mes contacts m'empêchent de le dire et j'ai pas envie de les perdre, si vous voulez. Ouais. Et donc, je vous dirai très prochainement, je l'espère le plus tôt possible, tout du moins début 2020, ce qui se passe dans le vestiaire du Borussia Dortmund.
C'est pas très positif, ce gamin, alors.
Voilà, c'est un peu compliqué.
D'accord. Bon, en tout cas, il affole un petit peu les gros cylindres européennes. Merci, Polo.
Merci beaucoup.
Excellente soirée à toi. J'accueille Julien Laurence.
L'homme de la nuit.
Écoutez, musique. Liverpool est champion d'Angleterre. Ça y est, c'est fait, c'est officiel. Julien Laurence.
Félicitations.
T'es sorti. Bravo, Liverpool. T'es 40 ans plus tard.
T'es sorti du resto.
30 ans
plus tard.
T'es au resto là encore, Julien, ou
Non, là je me coiffe pour sortir là.
Il est là.
Avec ou sans maman, c'est ça la question.
Non, alors maman, non, alors.
Avec ce soir, avec.
Il y a sa mère, qui s'appelle sa maman, et il y a sa femme, qui s'appelle sa femme.
Oui, hein.
Non, mais t'es pas. Là.
tu veux pas after de l'élégance ou pas élégance.
Il connaît pas, il est jeune, Jonathan.
C'est vrai qu'on oublie qu'il est jeune, c'est ça, qu'il a que même pas à peine 30 ans. Bon, Liverpool s'impose encore une fois 2-0, doublé de Salah, que dire. Liverpool, bon, je sais plus quoi dire en fait chaque samedi soir avec toi Ludo qui est fan de Liverpool, Julien qui nous dit que c'est acté, ils vont être champions.
Ces gars, c'est plus fort que toi.
Bah là, bah, excuse-moi, mais là 10 points d'avance sur Leicester.
17 sur
Manchester City qui joue demain, certes, à Arsenal, mais qui peut revenir à 14 points, mais c'est terminé
Leicester
maintenant.
Leicester peut pas un peu, non, je sais pas.
Non, c'est trop
aujourd'hui,
c'est fini.
Aujourd'hui, par exemple, contre Norwich, ils ont montré leurs limites. C'est vrai qu'ils avaient remporté leurs 8 derniers matchs au championnat. Leicester, ils avaient été très bons. Jamie Vardy avait marqué à chaque fois. Mais tu sens quand même que pour continuer, pour essayer d'aller chercher Liverpool, il aurait fallu qu'ils continuent sur ce rythme-là jusqu'à la fin de la saison, quasiment.
Mais c'est pas possible.
Et c'est impossible. Même Liverpool, je pense qu'à un moment, ils vont forcément perdre des points et se faire accrocher. Il y a quelques matchs à domicile et à l'extérieur assez compliqués qui vont arriver à un moment. Et puis, ils vont jouer tellement de matchs aussi avec la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, etc., qu'à un moment, forcément, physiquement, ils vont ressentir le coup. Mais si tu regardes si tu comptes la fin de la saison dernière et que tu regardes tous les matchs qu'ils ont joués, c'est 24 victoires et un match nul sur les 25 derniers matchs de Première Ligue. Ça fait 73 points sur 75. C'est hallucinant. Ça fait 99 matchs de suite à domicile que s'ils ne sont pas menés à la mi-temps, ils ne perdent pas à la fin du match. Et je crois qu'ils en sont à 48 matchs de suite à domicile en championnat sans défaite. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire des trucs incroyables. Et c'est impossible maintenant que quelqu'un les rattrape, que ce soit Leicester ou Manchester City ou n'importe qui. Donc félicitations à eux.
Champion
d'Angleterre 30 ans après. Et je vais te dire même que s'ils sont sérieux jusqu'au bout, on a déjà parlé, je crois que c'était vendredi soir dans l'after ou jeudi soir.
Ah oui, c'est quoi le record de points?
Donc c'est les 101 c'est 100, points de Manchester City, de Pep Guardiola, la deuxième saison de Pep Guardiola. Non mais je pense surtout qu'ils seraient capables peut-être de faire le fameux triplé de Manchester United en 99, Ligue des Champions, Coupe d'Angleterre et Championnat d'Angleterre. Je pense qu'ils sont capables, ils sont allés chercher
la même rage, le même enthousiasme en Ligue des Champions que la saison dernière ou pas. Je sais pas, hein. Ils l'ont gagné, objectif Première Ligue.
Connaissant l'entraîneur, à mon avis.
Et je pense qu'ils ont une meilleure équipe que l'année dernière, même s'ils ne sont pas renforcés au mercato. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont arrivés l'année dernière, comme Fabinho ou Naby Keita, qui ont, l'année dernière, voilà, même s'ils ont été bons à certains moments, été bons toute la saison. Je ne sais pas, Julien, ce que tu en penses, mais je pense que l'effectif est plus complet.
Mais tu es complet partout. Derrière, tu as une défense.
Non, mais par rapport à l'année dernière.
Tu as une défense de fer centrale. Tu as des latéraux, c'est peut-être les deux meilleurs latéraux du moment. Au milieu.
Ah mais non, mais ça, ok. Julien, je pense pas que l'équipe est meilleure que l'année dernière, même s'il n'y a pas eu de recrues.
Je pense qu'ils sont meilleurs parce que perdre le championnat pour un point la saison dernière après avoir terminé la saison avec 97 points, je pense que ça ferait du mal à n'importe quelle équipe. Je pense qu'ils ont énormément appris justement de cette déception là, qu'ils sont devenus une équipe beaucoup plus mature, peut-être moins flamboyante avec le ballon. C'est moins kiffant de les voir jouer cette saison. Aujourd'hui contre Watford par exemple, ils peuvent facilement être menés 2-0. Bah, après un quart d'heure de jeu, il y aurait rien eu à dire, mais ils trouvent les ressources à chaque fois pour l'emporter, même quand ils jouent pas bien, ce qui a été plus souvent le cas cette saison que quand ils ont bien joué. Et je trouve qu'ils ont ce côté tueur qu'ils n'avaient pas forcément la saison dernière. Et ce côté, même si on joue pas bien, on va quand même aller gagner. Ils ont cette force de caractère, sûrement née d'ailleurs, de la déception de la saison dernière, qu'ils n'avaient peut-être pas la saison dernière. Et n'oublie pas qu'en janvier va arriver le japonais du RB Salzbourg, Minamino, qui est un très très bon joueur, qui va faire beaucoup de bien.
Quel poste?
Qui va rentrer dans la rotation. Et donc, il joue attaquant de pointe, il peut jouer 9,5, il peut jouer sur un côté.
C'est le japonais, c'est
okay,
ça?
Ok, les gars.
Voilà, c'est ça, le japonais qui joue avec Haaland.
Merci, Julien. Excellent soir à toi.
Merci, les gars. Okay, la quatrième défaite de Chelsea en 5 matchs en première ligue. Rien de plus à Chelsea, évidemment. Par Olivier. Va à l'Inter, Olivier Giroud. On en reparlera.
Va à Marseille.
Ou à Marseille,
à l'Inter avec Lukaku et Lautaro, il va jouer.
L'Inter est motivé. Mais il aura plus de chance parce que là, il est troisième d'une rotation à un attaquant seulement.
Je te le dis, il jouera pas à l'Inter.
Merci, Jonathan. Merci, Ludo. Excellent
after ce soir. À très vite.
En bonne soirée. Salut.
Bye.
Salut, Nicolas.
RMC. L'Afterfoot. Make their Christmas wishes come true. Whether they love Disney's Frozen 2, want to jet off on Barbie's dream plane, or ready up with the Fortnite Battle Royale collection. At littlewoods.com, you'll find all the toys they love, all with inclusive delivery and free returns. Own Christmas. Shop now at littlewoods.com.